Voilà, c'est parti, l'enregistrement a démarré. Donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau Radio Pléiade, le numéro 5. Nous sommes le 31 mai 2021, il est 21h heure de Paris et on est heureux d'être avec vous et on va vous parler ce soir d'eau. On a mis dans le titre « Vers l'air du Verseau » de façon un petit peu originale, on l'a écrit de façon un peu originale. Vous allez me dire, mais de l'eau, c'est quoi? C'est pas spirituel? En fait, si, l'eau, c'est très, très spirituel et vous allez comprendre. Et j'espère que vous allez être intéressés. Alors moi, justement, en guise de petite introduction par rapport à ça, moi, en fait, si je parle de moi, mon parcours spirituel, en gros, il a démarré par l'eau. C'est pour ça que je trouve ça aussi intéressant qu'on parle de ça ce soir. Parce qu'il y a des années de cela, j'arpentais le... Alors, pour ceux qui ne parlent pas, vous mettez votre micro en muet, s'il vous plaît. Il y a des années de cela, j'arpentais le salon Marjolaine en région parisienne. Vous savez, c'est l'un des grands salons bio. C'était un petit peu le salon de l'éveil à une époque, c'était l'un des premiers. Et l'une des premières choses que j'ai faites, justement, c'est de m'intéresser à l'eau que je buvais. Et je me suis intéressé justement à la bioélectronique du professeur Vincent. J'ai écouté des conférences. J'ai rencontré un monsieur qui vendait des osmoseurs. Et puis, j'en ai rencontré un autre qui disait que ça faisait 10 ans qu'il buvait de l'eau osmosée et qu'il avait fait des analyses de cheveux et qu'il n'avait absolument aucune carence en oligo-éléments. Et du coup, je me suis intéressé à ça et j'ai acheté un osmoseur. Et puis, c'est un petit peu comme ça que tout a démarré. Parce qu'en réalité, boire de l'eau pure, c'est une condition justement importante pour pouvoir faciliter son évolution spirituelle. Et on en parle beaucoup d'ailleurs dans les rendez-vous sur les implants du mercredi, où on vous demande de boire parce que justement, le travail qu'on fait sur la dissolution des implants il nécessite justement de boire de l'eau pour éliminer les toxines. Enfin voilà, une petite introduction. Alors pour moi, l'humeur du jour, c'est… en fait, je suis content parce que je suis allé voir mon paysan du coin. Et il m'a refilé un petit peu de fumier, donc j'ai pu planter mes courges aujourd'hui, donc je suis très content. Voilà mon humeur du jour, planter des courges. On ne sait jamais, avec les temps qui viennent, c'est bien d'avoir des petites choses au jardin. Nous sommes 40 participants. Allez, à vous de vous présenter.
Bon, ben bonjour, je m'y colle, je suis Thibaut et j'ai... fondé, originel, il y a maintenant 7 ans, 9 ans bientôt, ouais. il y a eu 9 ans. Et donc, en fait, c'était parce que j'ai construit des maisons pendant des années, pendant 35 ans, j'ai construit des maisons en terminant mes 20 dernières années par les faire complètement écologiques. Voilà. Et donc, une fois que j'ai compris l'importance de l'eau, c'est en rencontrant une fasciathérapeute. Et cette fasciathérapeute nous a fait comprendre que si on ne buvait pas de l'eau de grande qualité, on se retrouvait dans des situations vraiment impossibles, souvent au niveau des fascias. Pour ceux qui ne connaissent pas les fascias, ce sont les gaines qui entourent absolument tous les organes de notre corps. Et il faut que l'eau circule d'une manière subtile, mais qu'elle y soit. Et quand les gens sont en défaut d'hydratation, ben les fascias se figent. Les gens ont des maux de dos incroyables, des maux de partout. Enfin bref, voilà. On a rencontré donc une personne qui avait un système fabuleux. On a suivi, on a acheté ce système, on l'a trouvé très bien. Et puis patatras, le type qui le diffusait, on s'est rendu compte qu'il trichait de tous les côtés. Et on s'est dit aussi qu'il fallait corriger le système parce qu'il n'était pas assez performant au niveau durabilité, et donc on a créé notre entreprise, et voilà. Donc maintenant, ça c'est pour le matériel. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en suis venu à l'eau? Ben, parce que d'abord, l'eau, c'est 99% de nos molécules. Et 99% de nos molécules, ça veut dire que quasiment tout notre organisme est composé d'eau. Et dans notre organisme, l'eau n'est pas sous forme liquide, elle est sous forme de gel. Quand vous vous blessez, quand vous, je sais pas, vous vous arrachez une croûte, vous voyez bien qu'il y a un jus qui sort de la plaie, et ce jus est gluant, épais, il est sous forme de gel, c'est de l'eau, c'est le liquide qui est partout, c'est ce qui circule dans notre corps et qui va amener dans tous nos organes les messages, des différentes choses, des différents liquides, et ce qui va également véhiculer, le sang véhicule des choses, mais le liquide, la circulation lymphatique est vraiment très importante, la lymphe, la qualité de la lymphe dépend de la qualité de l'eau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet? Parce que beaucoup de gens en France se contentent de boire l'eau du robinet.
Alors excuse-moi Thibaut, oui. de t'interrompre. Je ne sais pas si Eric et Cindy, qui sont les co-animateurs, ainsi que Sandrine d'ailleurs, souhaitaient se présenter avec l'humeur du jour. Tu as basculé directement dans le cœur du sujet, ce qui est très bien. Mais du coup, je ne sais pas, Cindy, Eric ou Sandrine, est-ce que vous voulez dire juste un tout petit mot pour accueillir notre invité?
Eh bien, bienvenue Thibaut. Donc moi, j'ai essayé un produit que Thibaut m'a laissé la semaine dernière, qui est assez fabuleux. Il vous en parlera, sinon ça donne une eau qui est très vivante. Et je suis presque devenu accro, et ça donne une belle pêche et ça nettoie. Donc, liquidement parlant, je suis très très bien. Voilà.
Et c'est toi qui nous a proposé justement Thibaut comme interlocuteur ce soir, et je t'en remercie beaucoup.
Avec plaisir. Donc, je laisse la parole à qui veut se présenter et donner son humeur du jour aujourd'hui.
Bonsoir, moi c'est Cindy. Je ne sais pas si on m'entend bien.
On t'entend très bien.
Ah, super. Donc, moi je représente le réseau francophone, donc français de Prepare for Change, préparez vos changements. Le site internet c'est fr.prepareforchange.net. J'ai aussi un lien avec la civilisation ancienne d'Hyperborée. Ces dernières semaines, j'étais pas très bien, j'étais plutôt malade, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vais peut-être pouvoir reprendre le travail la semaine prochaine. Et je suis très contente de vous accueillir ce soir, Thibaut. Carlo, je connais pas beaucoup de choses dessus, donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses ce soir. Voilà.
Voilà, c'est gentil.
Allô, allô. Bonjour à tous. Je suis Sandrine, donc je suis méditante sur les méditations mondiales. Je suis Cobra. Assidûment depuis à peu près 6 ans. Merci pour le sujet qui va super m'intéresser. Que l'eau, c'est très important. Et bienvenue à tous. Merci.
Ok, super. Ben, merci à vous. Et on va enchaîner direct. On prendra les humeurs du jour des participants quand vous prendrez la parole, quand vous poserez vos questions. Vous pourrez en profiter. Et on redonne la parole à Thibaut. Et désolé pour cette petite interruption, Thibaut.
Voilà. Alors, c'est moi qui reprends.
Vas-y.
Voilà. Désolé d'être entré dans le vif du sujet parce que je ne connaissais pas le système de radiopléate. C'est la première fois que je l'entends et que j'écoute et que je trouve plutôt convivial et sympathique. Voilà. Merci. Bon, alors, j'ai rencontré Eric au fur et à mesure de Messenger et d'échanges sur Facebook, et j'ai constaté qu'il était très intéressé par la dimension vibratoire et l'eau. Ben, justement, c'est le problème, c'est qu'il faut qu'on ait une eau qui vibre, et l'eau qu'on a au robinet, ben, elle ne vibre pas. L'eau qui vient d'un osmoseur, elle ne vibre pas. L'eau de pluie, elle vibre énormément. L'eau d'une rivière, elle vibre énormément. L'eau d'une source, énormément. Et il y a des tas de procédés qui permettent de reproduire ce que la nature fait très bien. Donc, c'est ça qu'il faut trouver le moyen de faire quand on veut trouver de l'eau qui vit. Donc, il est évident que le ministère de la maladie, de la santé, nous dit toujours qu'on ne peut pas employer le terme d'eau vivante. Et pourtant, ben voilà, c'est bien ça qu'il s'agit. Au niveau vibratoire, ça se constate très facilement. Donc, on peut l'analyser de manière électromagnétique, on peut l'analyser avec un appareil d'acupuncture électronique, on peut aussi l'analyser avec un appareil un appareil MORA, c'est pour ceux qui connaissent la MORA-thérapie. C'est assez fabuleux de voir à quel point l'eau peut vibrer. Voilà. Donc, au sujet de l'eau, boire de l'eau pure, c'est très bien, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas tout à fait pure, parce que pour reprendre les travaux de Marc-Henri, il dit bien, il ne faut pas boire de l'eau pure, il faut boire de l'eau propre, parce que si l'eau n'a pas un tout petit minimum de minéralité, la dynamisation qu'on y aurait mise n'y tient pas, ne reste pas, il faut un tout petit peu de minéralité dedans. Et le meilleur moyen de rajouter une minéralité à une eau qui a été très fort filtrée, comme l'osmose inverse, c'est d'employer des minéraux qui sont biodisponibles. Alors, on pourrait broyer du corail, mais ce n'est pas bien parce que le corail est devenu vraiment rare. Et on a trouvé, nous, que le lithotam était vraiment ce qu'il y avait de plus efficace. Le lithotam, c'est un peu l'eau de Quinton qui est liquide, l'eau de Quinton en solide. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Quinton, René Quinton est un scientifique français qui, dans les années 1900, a fait une expérience qui résume très très bien tout son travail. Vous imaginez un chien d'une dizaine de kilos, si vous lui retirez 400 millilitres de son sang, ben vous le condamnez à mort. Donc, la seule solution consiste à immédiatement réinjecter du sang ou, par exemple, le sérum de Quinton qui est constitué, en fait, de l'eau de mer puisée à 30 mètres, purifiée, filtrée et coupée de 3 fois son volume en eau très pure. Donc on a à ce moment-là une eau qui a la même tension superficielle, les mêmes propriétés que le sang. Et donc en quelques jours, le chien retrouve une santé parfaite sans aucun effet secondaire. Et pendant la Première Guerre mondiale, on a transfusé des dizaines de milliers de gens sans aucun effet secondaire. On aurait, si on avait continué cela, on aurait évité les scandales du sang contaminé, tout le trafic sur le sang, etc. N'empêche que le sang est évidemment une substance extrêmement précieuse, mais on peut, quand on n'en a pas, remplacer par du sérum de Quinton. Donc, pour montrer que l'eau de mer contient en fait tous les oligo-éléments dont nous avons besoin. C'est la soupe originelle dans laquelle la vie s'est créée il y a des millions d'années. Et donc, trouver le moyen de reminéraliser son eau de manière biocompatible, c'est important. Alors, pourquoi biocompatible? C'est parce que je vais employer des illustrations un peu grossières, c'est-à-dire si je voulais avoir me fournir des minéraux comme par exemple de la silice, si je mangeais du sable, vous avez bien compris que je ne vais pas pouvoir digérer, je ne vais rien pouvoir en faire. Mais si je mange des orties, ben, je vais pouvoir avoir de la silice. Si je veux du calcium et que je mange un morceau de pierre ou un morceau de ciment, ben, ça ne va pas marcher. Par contre, si je prends du persil ou des légumineuses, je vais avoir du calcium assimilable. Si je veux du zinc, je ne vais pas y arriver en suçant une gouttière, je vais y arriver en mangeant par exemple une huître ou le fruit du baobab. Voilà, ce sont des manières de comprendre que nous avons besoin du vivant, des micro-organismes ou des plantes, pour pouvoir nous fournir en oligo-éléments qui soient disponibles et utilisables par notre organisme. Voilà, il faut que les minéraux géologiques aient été transformés par des micro-organismes, des bactéries. Sachez aussi que notre corps est constitué de 10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules. Donc, c'est vraiment important de savoir que nos bactéries vont reconnaître ces substances parce qu'elles sont disponibles. D'où le terme biodisponible. Voilà. Donc là, si on a bien filtré l'eau, encore faut-il savoir que l'osmose, c'est à la fois un bienfait absolu et une catastrophe absolue. Alors, le bienfait, c'est parce que j'ai tout filtré, et la catastrophe, c'est parce que j'ai tout filtré. Donc, quand il n'y a plus rien du tout dans l'eau, il faut trouver un moyen, soit d'y réintroduire de l'air en la secouant, en la dynamisant, au moins, ou bien mettre quelques gouttes d'acide hyaluronique, ou bien de citron, ou bien du sel de Guérande, une petite pincée dans un litre. Voilà, cette manière de reminéraliser de l'eau. Et puis après, on peut la secouer, la bouteille. On peut faire des huit en la balançant comme un bébé un peu plus violemment qu'un bébé, mais bon, si on balance la bouteille, on va la dynamiser, et donc on va permettre de récupérer beaucoup plus, de mieux utiliser cette eau, de mieux s'hydrater. Voilà, mais tout ça, c'est compliqué, ce sont des démarches lourdes et longues. Donc pourquoi ne pas intégrer dans un même système une osmose, une reminéralisation et une dynamisation? Alors dynamiser, c'est bien, mais il faut encore structurer l'eau. Alors, dans la nature, il y a des choses extraordinaires. Quand vous allez suivre une cure dans un endroit où il y a des sources thermales, l'État va prendre en charge une partie de votre séjour, c'est-à-dire pas plus de 3 semaines. Pour la simple et bonne raison qu'au-delà, ben, ce sera trop, les charges minérales sont trop importantes. Mais vous allez pouvoir disposer cette eau parce que vous avez la dynamisation et la structure qu'il y a dans l'eau qui est au griffon de la source. Donc, si vous avez la mémo en bouteille, ben, jamais on va vous la rembourser, jamais la Sécu va vous indemniser pour ça. Pourquoi ? Parce que l'eau, au bout de quelques heures, elle flocule, les minéraux floculent et donc elle devient inutilisable ou très peu utilisable. Donc, c'est une idée drôle d'appeler une eau minérale parce qu'en fait, elle est minérale parce qu'elle a été agréée par le service des mines comme la plaque minéralogique. Donc, c'est un peu drôle, mais voilà. On a fait une espèce d'association d'idées entre la plaque minéralogique, le service des mines et l'eau minérale. Alors qu'en fait, l'eau, une eau minérale, c'est à la source, c'est pas en bouteille. Donc, on peut produire chez soi de l'eau à partir de l'eau qu'on a au robinet, de l'eau de pluie, si on a un forage, si on a d'autres systèmes, un canal, on peut la rendre potable et l'utiliser chez soi. Parce que transporter de l'eau, c'est une folie. Quand vous pensez qu'une bouteille d'eau, ça représente 18 litres d'eau virtuelle par litre produit, c'est absolument effrayant. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'eau virtuelle, ben, je vais donner quelques exemples simples. Par exemple, pour un kilo de viande de bœuf, pour ceux qui mangent encore de la viande, ça représente 15 500 litres d'eau virtuelle, un kilo de viande de bœuf. Un kilo de pain, ça représente 1100 litres d'eau. C'est déjà beaucoup, malgré la cuisson et tout ce qu'il faut faire, c'est déjà beaucoup plus économique, écologique aussi. Et puis une tasse de café de 7 centilitres qu'on a au bistrot, ça représente 140 litres d'eau, on ne s'imagine pas. Voilà, et donc quand on a la bouteille d'eau à 18 litres pour le litre produit, c'est assez affolant. Donc réfléchissez bien quand vous achetez une bouteille d'eau, sachez tout ce que vous jetez à côté d'une manière pas très consciente en fait.
Voilà. Excuse-moi, je vais te poser une petite question de compréhension. Là, tu nous donnes l'exemple de la tasse de café, mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de tant d'eau pour une tasse de café ? C'est quoi ? C'est pour arroser les plantes ?
Le transport, l'arrosage des plantes, la torréfaction, le bistrot qui la sert. C'est toutes l'eau virtuelle représente en fait tout ce qui n'y est pas, tout ce qui n'est pas vu. Et on fait un équivalent pétrole, comme on fait un équivalent eau. Et il y a des tas d'articles sur le web où on explique bien ce que c'est que l'eau virtuelle, où on appelle aussi l'impact de l'eau. Impact de l'eau. Donc, c'est pour montrer que l'eau, elle se cache derrière beaucoup de choses qu'on fait. Et par exemple, pour une voiture, j'ose plus dire le chiffre parce que je vais me tromper, mais c'est énorme le nombre de litres pour la tonne que représente la voiture. C'est ce qu'il y a de pire, en fait, au niveau de l'écologie. Donc, voilà. Bref, ça, ce sont donc les équivalents eau de ce qu'on fait. Alors, quand on pense à un osmoseur, beaucoup de gens reprochent à l'osmoseur de rejeter l'eau. Alors, oui, c'est vrai, l'eau rentre dans la membrane et une partie de l'eau passe à travers la membrane avec la pression qu'il y a au réseau ou avec une pompe. Et une grande partie de l'eau passe pour rincer la membrane et est perdue. Et donc, c'est vrai, on perd dans les bons appareils 2,5 litres par litre produit, mais quand vous pensez à la bouteille d'eau, ben, c'est déjà plus de 6 fois plus écologique, c'est déjà 6 fois plus intéressant. D'autant plus que vous pouvez récupérer cette eau. Si la maison ou l'appartement s'y prête, on peut remettre cette eau dans la chasse d'eau, on peut la garder pour arroser les plantes, aller sur la terrasse. Quand on a un système d'eau de pluie, on peut la récupérer intégralement et la remettre dans la citerne. Si on est dans un camping-car, on peut le remettre intégralement dans le réservoir. Il y a des tas de méthodes pour pouvoir optimiser. Encore faut-il qu'au prix où est l'eau aujourd'hui au réseau, ben, que ce soit rentable, le système de récupération, l'investissement dépensé pour le système de récupération soit à la hauteur de l'investissement. Parce que quand on pense à 10 litres d'eau osmosée par jour, ça représente donc 35 litres par jour, parce qu'il y a 2,5 litres par litre produit. Et quand on pense que sur un mois, on va faire 30 fois 35, ça va faire à peu près 1000 litres, un mètre cube, et le mètre cube est en moyenne à 3 à 4 euros en France. Donc, ça va vous faire une consommation de 450 euros par an pour avoir de l'eau à volonté, d'avoir 10 litres par jour, donc plus de 3000, 4000 litres par an. Donc, vous n'aurez jamais ça avec des bouteilles.
Excuse-moi, justement, donc tu disais 1 litre d'eau osmosée nécessite de rejeter 2,5 litres d'eau
en moyenne.
Voilà. En moyenne. Mais est-ce que, parce qu'il y a des osmoseurs qui fonctionnent avec des pompes électriques justement pour avoir une surpression, est-ce que c'est toujours la même chose ou justement alors, le fait d'avoir un osmoseur ?
C'est parfois pire. Alors le problème d'un osmoseur électrique, c'est qu'il crée une induction et donc il fait une pollution de l'eau. Il faut savoir une chose, c'est que l'osmose inverse purifie tellement l'eau qu'elle retire également la mémoire des produits retirés. La déstructuration de l'eau est telle, c'est une partie de la catastrophe de la partie osmose simple, c'est que la mémoire des produits retirés est retirée, donc il n'y a plus aucune information. Donc cette eau est vierge d'information. Ça veut dire que l'eau va être capable de récupérer l'énergie de n'importe quoi qui vibre à côté. Je parle de l'induction du moteur de la machine à laver la vaisselle qui se trouve à côté, ou son transformateur, ou le circuit électrique de la maison, ou bien le téléphone mobile, ou bien le Wi-Fi, enfin bon, tout ce qui peut y avoir à proximité peut être capté par l'eau. Alors, on peut empêcher ça en ayant une pierre de Schungite, qui est un système, qui est une pierre employée pour les militaires, pour les éoliennes aussi, pour empêcher les perturbations des ondes électromagnétiques. Le défaut de la Schungite, c'est qu'elle prend une partie de notre énergie aussi, et on peut compenser ce défaut par une labradorite qui, elle, est la pierre des thérapeutes, qui, elle, nettoie l'organisme de toutes les pollutions qu'elle reçoit au niveau électromagnétique. La Schungite ne se charge pas, donc on peut la laisser en dehors de l'eau, tandis que la labradorite, elle se charge tout le temps de cette énergie qu'elle récupère. Donc, si on la met dans le flux de l'eau, eh bien, elle va nettoyer l'eau tout en étant nettoyée elle-même. Et on va compléter les choses avec un cristal de roche. Alors, le cristal de roche, pensez aux parois de la source. Quand vous allez faire une cure thermale ou quand vous allez boire de l'eau à une source, c'est également le lit de la rivière. C'est un des éléments majeurs qui composent la surface de la Terre. Le cristal de roche, c'est la silice. Et la silice, ça forme. Pensez à Masaru Emoto, qui disait bien que les pensées influencent l'eau. Alors, les scientifiques détestent Masaru Emoto parce qu'il n'était pas scientifique du tout. Il a triché, il a employé les meilleures photos, mais si on retire le bébé avec l'eau du bain, ben on oubliera que Masaru Emoto est peut-être le plus grand contributeur à la conscience que l'on a sur l'environnement qu'on donne à l'eau. Donc, si on a de l'amour, de la gratitude, de la bienveillance envers l'eau, ben l'eau va faire une cristallisation très différente. Si on a de la musique hard rock ou une grande pollution, ben l'eau ne va pas cristalliser du tout de la même manière. Donc, c'est pour dire, et si on a des mauvaises pensées, c'est la même chose. Bah, Emoto a fait aussi une expérience qui est reproduite dans un film qui s'appelle « Préparez vos mouchoirs », si je me souviens bien, je peux me tromper, vous me corrigerez si ce n'est pas ça, où il a fait l'expérience avec du riz. Il a mis 3 bocaux de riz qu'il sépare par une feuille de papier. L'un, il le traite avec mépris, c'est-à-dire il l'ignore totalement. L'autre, il lui porte vraiment de mauvaises intentions. Et la troisième, il lui porte de bonnes intentions. La bonne intention, ben, le riz reste bien. La mauvaise intention, ben, le riz se détériore un peu, mais l'eau ignorée, le riz ignoré pourrit très très vite. Donc, c'est pour donner, cette expérience est reproductible, hein, donc elle est parfaitement scientifique. Je l'ai vu de mes yeux chez justement ceux qui ont fait produit le film en France, Water, le secret de l'eau. Je suis allé voir chez Jupiter Film et Yann Roulof, ça fait l'expérience chez lui. Et j'ai pu voir cette expérience des visu. C'est vraiment impressionnant de voir que ben, on peut reproduire cette expérience quand on veut. Donc, si on a donc tous ces procédés, ben, c'est bien, mais on n'a pas encore la dynamisation de l'eau. Alors, la dynamisation, on va prendre tout ce qui se passe avec Victor Schauberger. Alors, Victor Schauberger, c'est un garde champêtre. Alors, que peut faire un garde champêtre dans l'histoire de l'eau ? Ben, d'abord, un garde champêtre, c'est un observateur de la nature. Il se promène beaucoup. Il a fait des choses extraordinaires avec l'eau. Il a été le concepteur, par exemple, de canaux dans lesquels on pouvait, des canaux en bois, donc des sections droites, dans lesquelles on pouvait descendre de la montagne des troncs d'arbres entiers et constater que les troncs s'accumulaient dans les angles et se coinçaient, ils ne parvenaient pas à passer les angles. Et il a eu l'intelligence de mettre des petites languettes régulièrement dans le fond des canaux, un peu inclinées par rapport au sens de l'eau, et qui créait donc un mouvement tourbillonnaire dans tout le canal. et plus aucun bois ne touchait les bords, et les bois pouvaient descendre sans s'encombrer. Donc son procédé a été employé jusqu'à ce qu'on abandonne les canaux en bois. Et il a observé également que quand on est en haut d'une cascade et en bas de la cascade, on peut observer les mêmes plantes. Elles sont hydratées de la même manière apparemment, puisqu'elles reçoivent la brumisation de la chute d'eau. Elles ont également les pertes du lit de la rivière qui peuvent irriguer les radicelles. Et pourtant, on observe qu'en bas de la cascade, en général, les fruits sont plus gros, ils sont précoces, ils sont beaucoup plus de bien meilleure qualité, ils sont plus sucrés, si c'est le cas. Il y a des feuilles qui apparaissent plus tôt, ça bourgeonne plus tôt, les feuilles tombent plus tard, les tiges sont plus grosses, il y a moins de maladies. Et la seule différence entre le haut et le bas, c'est le tourbillon de la chute de la cascade, c'est le mouvement de l'eau. Donc l'eau en mouvement, c'est vraiment important, les canaux droits, c'est une catastrophe. Les Suisses ont compris aussi qu'ils devaient remodeler tous les torrents qu'ils avaient canalisés. Donc, ils ont commencé depuis une vingtaine d'années à rendre les torrents comme ils étaient auparavant, en insérant des cailloux, en faisant des zigzags pour que l'eau d'abord descende moins vite et puis qu'elle soit dynamisée, qu'elle permette de mieux irriguer quand c'était l'usage du torrent en bas. Et puis, quand on sait que l'eau du robinet, elle est dans des tuyaux tout droits, l'eau de la bouteille, elle a stagné. Donc, voilà, on se trouve toujours devant des eaux qui n'hydratent pas ou difficilement. Et justement, ce qu'évoquait Eric tout à l'heure, c'est qu'il y a même des gens qui ont été assez fous pour trouver le moyen de programmer le verre d'une bouteille. Et donc, il y a un procédé allemand que je ne connais pas le détail, mais je connais le résultat, et Eric va nous parler du résultat comme il l'a vécu, d'une eau qui est apparemment bonne et agréable. On peut faire une eau qui devient longue en bouche, qui devient à déguster comme on déguste un bon vin. Et ça devient très agréable. Déjà, l'eau avec le vortex, elle est déjà vachement agréable. Mais une fois qu'elle est passée dans une bouteille qui a été traitée, dont la silice a été traitée, c'est impressionnant. On se retrouve devant une eau qu'on a envie de boire au-delà de toute raison. Et voilà, ça c'est pour l'expérience tout à fait technique et mécanique. Pour reprendre tous ces travaux, je vous invite vraiment à lire et à vous intéresser aux travaux de Marc-Henri, qui est un travailleur à la retraite maintenant. Il était professeur d'université à Strasbourg et c'était un professeur de chimie très spécialisé dans l'eau. Vous pouvez aussi lire un bouquin qui est fabuleux, qui est pour moi le plus complet de tous. C'est Yann Olivo qui l'a écrit et ça s'appelle « La nature de l'eau ». Il a été réimprimé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il a été réimprimé, donc on peut le retrouver en librairie. C'est un bouquin très très complet, il date quand même déjà de quelques années, mais il reste très actuel parce que lui, il parle de toutes les formes de l'eau, avec détail et tous les avantages, les inconvénients de boire de différentes eaux. Il y a aussi tous les travaux de Jacques Collin, les livres qui sont un petit peu plus ésotériques peut-être, mais qui montre à quel point l'eau est vivante, il est important d'en disposer de la bonne manière, etc. Voilà, il y a des tas de gens qui ont écrit des belles choses sur l'eau. Il y a le livre de Masaru Emoto, c'est plutôt pour les belles images. Vous pouvez aussi voir sur le site de Laurent Costa, qui est plus intuitif que Masaru Emoto, tellement perturbé par l'eau qu'il regarde qu'il oublie d'appuyer sur le déclencheur de son téléphone, son appareil photo pour ce qu'il regarde au microscope. Il a des attentions dans sa tête et il observe ce que son attention a donné sur le site waterphoto.eu. On pourrait éventuellement diffuser toutes ces informations après sur le chat si vous le voulez. Laurent Costa, c'est vraiment un bonhomme assez fabuleux parce que ses travaux sont même demandés par la NASA. Quand la NASA a vu la simplicité des matériaux, des outils qu'il emploie pour les photos qu'il fait, ils n'ont pas cru que c'était lui, donc il l'a fait devant eux pour faire comprendre qu'il y avait moyen de faire des choses très simples qu'eux ne parviennent pas à faire avec des appareils extrêmement chers. Voilà, tout est dans l'intention qu'on a et l'eau donc subit les intentions qu'on a en tête. Et pour l'anecdote, on a beaucoup de clients, c'est vrai, et il y a des machines qui ne fonctionnent pas chez certaines personnes qui sont vraiment très perturbée. Et il y a des machines qui fonctionnent à merveille alors que les conditions de travail sont vraiment mauvaises parce que les gens vont très bien. Donc, comment expliquer ça? Ben voilà, c'est évidemment l'influence de la pensée sur l'eau. Elle est gigantesque. C'est assez impressionnant parce que ça paraît complètement incroyable et ça se vérifie au fur et à mesure qu'on avance, qu'on arrive chez les gens. Ben, d'abord, on a toujours des sourires, on a toujours un échange incroyable. Moi, c'est une gratitude que j'éprouve à chaque fois que je vais chez les gens. C'est un plaisir de rencontrer des gens qui ont pris en charge la qualité de leur eau et ce sont des gens responsables. Si c'est au niveau donc, technique, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir sur le site originel.com. qui n'est pas du tout un site vendeur, nous ne cherchons jamais à vendre. Je pars d'un principe, c'est qu'il faut informer et que les gens doivent choisir ce qui leur correspond. Donc le site se contente d'informer et d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi. Il y a une petite vidéo aussi de 5 minutes qui explique comment on s'y prend d'une manière efficace. Elle ne prend même pas 5 minutes, elle prend 4 minutes. Vous pouvez la voir sur le site originel.com. Originel s'écrit E-A-U-R-I-G-I-N-E-2-L-E.com. Voilà. Si vous êtes intéressé, ben, contactez Eric, il me transmettra. Sinon, ben, voilà, c'est à vous de choisir. C'est à vous de boire, disait Yannolino.
Ouais, super. Ben, merci beaucoup, Thibaut. J'ai le sentiment que tu pourrais nous en parler des heures, en fait, de l'eau. Donc là, tu as fait un exploit remarquable de résumer tout ça en 25 minutes. Donc, on va laisser la parole aux auditeurs, justement, parce que je suis sûr que ça intéresse et que les gens ont des questions à poser. Je vais pour amorcer la pompe des questions, je vais reprendre un message de Katia 11, là, justement, dans le chat, puisqu'en même temps, ça chatte dans le groupe Révolution Vibratoire. Donc, Katia 11 nous dit « Nous distillons notre eau du robinet avec un distillateur et nous mettons du sel de l'Himalaya pour la reminéraliser et nous lui créons un vortex. Nous la mettons au soleil. Il y a un message écrit sur chaque bouteille plus une fleur de vie. » Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, le procédé de filtration est extrême. Ce n'est pas une filtration, c'est une évaporation. Le distillateur emploie énormément d'énergie. Donc, c'est pour moi un système un petit peu contre nature, mais le résultat est bon. Le défaut, c'est qu'il n'y a plus du tout de gaz dissous. Donc la dynamisation, après avoir mis du sel de l'Himalaya, bon d'accord, le sel de l'Himalaya n'est pas inépuisable, il ne faut pas l'oublier, mais le sel de Guérande pourrait suffire. Voilà, pas de souci pour ça. Donc il faut secouer la bouteille ou bien vortexer la bouteille. Donc je ne sais pas le procédé qu'elle emploie. Mais je sais qu'une bouteille, on doit la secouer en faisant des émiscates, donc des formes de 8, la forme de l'infini. Il faut le faire pendant 4 à 5 minutes pour obtenir suffisamment de microbules pour que l'eau ait retrouvé de l'oxygène, des gaz dissous. Le problème du distillateur, c'est que le problème, c'est la qualité de la filtration, du traitement est telle qu'il n'y a même plus les gaz dissous. Donc, boire de l'eau distillée, ok, mais pas dans n'importe quelle condition. Ce que fait, c'est Katia, si j'ai bien compris, c'est tout un travail, c'est très bien, c'est vraiment efficace. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis un émiscate sur le chat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dynamiser l'eau après l'avoir reminéralisée, effectivement. Le sel de l'Himalaya, je ne sais pas s'il est biodisponible, je sais en tout cas que le sel de Guérande, lui, l'est. Le sel de l'Himalaya, c'est un sel totalement minéral, tandis que le sel de Guérande est un sel dans lequel il y a plein de micro-organismes, surtout s'il n'est pas purifié. Voilà.
Ok, super. Alors, j'invite du coup les participants à lever la main. Donc, normalement, vous pouvez…
Il y a quelqu'un qui écrit « Que pensez-vous de l'eau cacoun ?» Alors, l'eau cacoun, voilà, on est dans le problème de la bouteille, de transport… La bouteille peut être en verre, je ne me rappelle même plus si le cacoun est en verre. C'est une eau qui a été, si je me souviens bien, très hydrogénée, ou je ne sais plus, il y a des qualités, c'est certain. Mais bon, il ne faut pas oublier, la bouteille, elle est restée inerte, donc il n'y a pas de dynamisation. Donc, c'est un super effet commercial, ça coûte très cher, et voilà, c'est Voilà, c'est une eau médicale. Moi, je réserverais cela à un traitement médical qui dure un certain temps, 15 jours maximum. C'est comme prendre une eau minérale, par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a plein de magnésium. Ce sont des eaux extrêmement chargées qu'il faut boire avec beaucoup de prudence. Il vaut mieux prendre le magnésium sous forme de complément alimentaire au labo des plantes, par exemple, qui sont des labos qui font des produits extrêmement de grande qualité. Il y en a d'autres, hein, des labos qui font des bons produits, c'est sûr, mais bon, voilà, je connais celui-là. Donc, les eaux, si quelqu'un posait la question, est l'eau Kangen ? Alors, c'est ça ce qu'on appelle l'eau qui est traitée avec. Il faut une charge minérale, donc on ne peut pas la purifier d'abord, donc on la filtre simplement avec un filtre à charbon, donc la filtration est très élémentaire. Et il faut garder une minéralité dedans pour pouvoir faire une électrolyse. Et l'électrolyse, c'est le traitement qu'on va faire, va permettre de changer le pH de l'eau. Alors, les gens s'illusionnent parce qu'ils croient que, et Kangen en parle aussi comme ça, ils croient que c'est l'eau alcaline qui va permettre de recouvrer la santé. C'est de nouveau une eau médicale, mais en fait, elle travaille beaucoup plus sur le RH2, le potentiel redox. Et le potentiel redox, dans l'électronigramme de la bioélectrique de Vincent, qui est quand même les normes de l'eau les plus sévères au monde, les seules normes de l'eau qui tiennent compte du terrain des gens qui la boivent, c'est vraiment un problème parce que c'est une eau médicale. Au Japon, où la machine est produite, elle n'est autorisée que en hôpital et sous surveillance médicale. Voilà, bref, c'est un problème. Marc-Henri avait même écrit avec un de ses collègues une lettre d'avertissement à l'Académie de médecine pour bien dire attention, pas d'excès de l'eau Kangen, elle est en vente libre, elle devait être encadrée. Voilà. Je vois des questions sur la Big Berkey. Alors, Berkey, c'est probablement le système gravitaire, donc quand on met de l'eau dans une réserve et que ça passe à travers un filtre, c'est peut-être le système gravitaire le plus abouti. Vous avez aussi British Birkenfeld, vous avez deux, trois marques comme ça, vous avez Doulton, ce sont des systèmes gravitaires ou en pression qui emploient des bons systèmes, ça fonctionne bien. Le défaut, c'est que on a encore une charge minérale importante. Et Berkey a un avantage sur tous les autres. Ils sont les seuls à avoir fourni des analyses faites par un laboratoire indépendant. Voilà. C'est vraiment un système fiable. Moi, je l'emploie quand je suis en voyage et que je ne peux pas transporter un osmoseur avec moi. Quand j'étais en avion, je me trimballe avec une Berkey dans laquelle je mets des vêtements parce que c'est creux quand on l'emboîte l'un dans l'autre et qu'on a détaché les filtres. Voilà, on a une eau de bonne qualité. Et puis quand on la dynamise derrière avec une bouteille comme la Flaska, par exemple, c'est un bon système. Donc Eric nous reparlera de son expérience avec la Flaska. Et voilà. Je vois aussi l'eau diamant. L'eau diamant, donc, de nouveau, c'est une eau informée. Il vaut mieux avoir une eau très pure pour pouvoir repasser l'eau diamant dedans, une eau de très bonne qualité. Sinon, on dynamise aussi toute la cochonnerie qu'il y a dans l'eau. Donc, dynamiser une eau qui n'est pas bonne, ce n'est pas bon, terrible non plus. Alors, il y a quelqu'un qui met Monrucou, la meilleure eau. Ben oui, mais il y a Monrucou, Rosée de la Reine. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Il y a même une cristalline qui est correcte parce qu'elle est produite en Alsace, dans un endroit où l'eau est assez pure. Le problème, c'est toujours la bouteille. On a une bouteille en plastique. Sur les bouteilles en plastique, il est écrit à conserver dans un local propre, sec, à l'abri du soleil et de la lumière et sans odeur. Ça veut dire que tous les embouteilleurs sont parfaitement conscients que leur bouteille est poreuse et que l'eau va prendre des goûts qui sont dehors ou les odeurs de dehors et qu'elle va s'oxyder et que ce n'est pas bon. Ça ne reste pas longtemps. Voilà. Et puis, je vois que quelqu'un passe à un osmoseur et la passe dans un Berkey. Mais c'est dommage parce que la qualité du filtre Berkey va gâcher la qualité de la filtration de l'osmoseur parce que c'est moins bon. Voilà. Donc, pas besoin de mettre au frigo après, ce n'est pas utile. Surtout que l'eau froide n'hydrate pas du tout bien. Elle fait un choc. Le plat magnétique, c'est bien, mais là, bon, pourquoi pas. Mais quel travail! On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de conscience là. Mais bon, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose. Voilà, une fleur de vie, c'est toujours une belle influence, mais ce n'est pas suffisant si l'eau n'est pas purifiée. Ne jamais oublier que si une eau n'est pas de bonne qualité, quand on la dynamise, on dynamise également ses contenus, ses contenants, pardon, ce qu'elle a dedans. Ce n'est pas terrible et ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. L'argile verte, voilà encore un procédé qui permet de retirer dans l'eau, d'attirer beaucoup de choses et d'utiliser les qualités de l'argile qui est extraordinaire. Quand on va sur une île déserte, il faudrait employer toujours de l'argile avec soi et puis de l'essence de lavande ou du sel de nigari. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut emporter avec soi, ce sont des choses essentielles. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, il y a quelqu'un qui a une mauvaise transmission apparemment, donc voilà, il y aura quelqu'un qui va y aller. Alors, les plaques de Koltsov, ça, je ne sais pas ce que c'est par contre, les plaques de Koltsov, je ne connais pas, je ne connais pas.
Oui, c'est des...
Il se prépare des bouteilles d'eau bleue. Alors, est-ce que c'est la bouteille qui est bleue ? Parce qu'effectivement, le bleu cobalt, c'est aussi quelque chose qui fait vibrer l'eau plus fort, mais il faut que l'eau soit de bonne qualité pour aller dedans. C'est toujours la même chose. L'eau doit être filtrée de manière efficace. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je vais revenir sur les CEF, Thibault. Les CEF, c'est des correcteurs d'état fonctionnel. Donc, c'est une technologie, c'est gros comme des cartes d'identité, un peu plus épais.
D'accord.
Et il y a une émission vibratoire. Donc, je pense que c'est comme la carafe, si ça dynamise ce qui est bon, ça peut aussi dynamiser ce qui est moins bon.
Voilà, il faut toujours faire attention à ça, c'est assez embêtant. Alors que ce qui est assez étonnant, c'est qu'un vortexeur, apparemment, désinhibe beaucoup des mauvaises qualités des choses qui passent dedans. Bon, maintenant, ça a vérifié, parce qu'au niveau chimique, on détecte toujours les particules, donc c'est à vérifier. Alors, je reviens sur une chose qui est assez essentielle et que j'ai complètement zappée. On parle beaucoup de nanoparticules, hein, avec les vaccins, avec tout ce qu'on trouve comme dioxyde de titane dans les dentifrices, des grossièretés. Oui, on parle beaucoup des nanoparticules qu'on découvre de partout et surtout des nanoparticules de plastique que l'on découvre même dans les eaux de source maintenant parce qu'elles ont traversé les couches géologiques. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Eh bien, l'osmose inverse vient à bout des nanoparticules et aucun autre système ne vient à bout. Donc, je dirais que la supériorité extrême de l'osmose inverse sur tous les systèmes, c'est le retrait de la mémoire des produits retirés, l'extrême finesse, puisqu'on retire même les nanoparticules. Donc, je sais que la Berkey ne retire pas les nitrates et les nitrites, alors que l'osmose inverse, oui, retire les nitrates et les nitrites. On n'est pas obligé de traiter chimiquement l'eau des nitrates et des nitrites si on a de l'osmose inverse. Donc voilà, ça fait quand même un avantage. Alors, il y a quelqu'un qui met un cristal de roche et une chungite dans son eau, puis une fleur de vie. Oui, mais est-ce qu'elle est filtrée avant ? Voilà, toujours la même chose. L'eau de lune, apparemment, c'est bien, oui, bien sûr, mais de nouveau, si c'est de l'eau filtrée. La chungite est assez efficace, elle est employée et peu connue par chez nous. Elle est efficace parce qu'elle peut absorber, avec un D comme Daniel, et elle permet des tas de propriétés médicales connues chez les Russes, publiées chez les Russes, très difficiles à trouver par chez nous. Les livres qui parlent de la chungite sont très peu explicites au niveau des sources, c'est dommage, parce qu'on dirait que ce sont des assertions, donc on aimerait bien avoir plus. Mais toujours est-il que, simple traversée par un des affluents du lac Onega en Russie, en Carélie, la simple traversée de la seule carrière de chungite qui existe au monde fait en sorte que le lac est d'une pureté incroyable alors qu'il y a plein d'autres affluents qui sont pollués. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des qualités avec la chungite qui sont assez impressionnantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le cristal de roche, la chungite, voilà. Et puis, je ne vois pas d'autres questions, apparemment.
Vas-y, Eric, tu voulais parler, non ? Il me semblait.
Non, c'est bon, c'est fait.
D'accord. Bah, j'invite en fait les participants. Là, on est 78 participants là, ce soir.
Oh, magnifique.
Oui, donc bah, j'invite en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal finalement de questions qui sont posées dans le chat. qui sont répondues au fil de l'eau par Thibaut. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un mode efficace de communication finalement. Mais je vous invite à lever la main si vous avez des questions, notamment par rapport à peut-être ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Alors moi je vais en poser une justement en attendant que les gens veuillent bien lever la main. Mais tu parlais tout à l'heure justement du fait qu'une eau était plus assimilable lorsqu'elle était passée dans des vortex, en fait. Enfin, qu'elle avait eu des mouvements de type vortex. Mais c'est pourquoi, en fait, qu'est-ce qui change au niveau de l'eau? Moi, j'avais entendu parler. D'ailleurs, j'ai le livre de Marc Olivaux, alors pas celui que tu as cité, mais un autre, qui parle des procédés de structuration de l'eau. Et en fait, on parle de clusters, c'est-à-dire que les molécules d'eau ont tendance à s'associer, suivant justement la dynamisation qu'elles subissent, elles s'associent d'une certaine façon, ce qui va donner justement une certaine mémoire à l'eau. Mais est-ce que tu pourrais préciser qu'est-ce qui fait qu'une eau va être justement mieux minéralisée, va mieux désaltérer si elle passe dans des vortex?
Alors, pour reprendre l'idée des clusters, Marc-Henri et Yann Olivaux en sont tout à fait revenus. Ils se sont rendus compte que ce sont des notions tout à fait subjectives et parfaitement théoriques, parce qu'on n'a jamais pu trouver le moyen d'expliquer qu'il y a des clusters. Il faut savoir que l'eau a des ponts hydrogène, hein, donc il y a des petites choses qui relient, qui sont d'ailleurs détruites. Ces ponts hydrogène sont détruits et reconstruits après le passage de la membrane dans l'osmose. Et on peut dire que l'eau divorce et se marie quelques milliards de fois par microseconde. Donc l'eau est en perpétuel mouvement, et donc parler de cluster, ce n'est pas possible. C'est un truc qui ne semble complètement théorique. Et je pense aussi qu'il y a encore un scientifique américain qui est intervenu, je ne parviens pas à retomber sur son nom, je suis désolé, j'ai un petit début d'Alzheimer, on va dire. Donc il a fait des travaux extraordinaires qui montrent bien que les clusters, malheureusement, c'est une idée totalement théorique. Alors, Marc-Henri, je lui ai posé un jour une question, je lui ai dit, mais c'est dingue, j'arrive pas à expliquer ce qui se passe avec un vortex, pourtant intuitivement, je sais que c'est tellement puissant, c'est tellement efficace. Il m'a dit, tu prends tout simplement un mètre cube. Qu'est-ce que ça représente, un mètre cube? Ça représente un mètre sur un mètre sur un mètre. Donc, en fait, on a 6 mètres carrés de surface autour du cube. Si je coupe le cube en cube de 10 cm, qu'est-ce qui va se passer avec la surface? Elle explose, elle devient bien plus grande. Et si je coupe chaque petit cube de 10 cm en cube de 1 cm, puis 1 mm, 1 dixième de millimètre, à l'infini. En fait, je vais rendre l'eau hyper utilisable. C'est ce qui se passe, c'est qu'on a une possibilité d'utiliser beaucoup mieux l'eau. C'est comme si l'eau permettait d'ouvrir les aquaporines, c'est-à-dire les petites portes qu'il y a dans les cellules, qui fonctionnent en entrée comme en sortie. Et le fait que l'eau soit dynamisée, ça permet à l'aquaporine d'ouvrir et de laisser rentrer l'eau. Donc, l'eau, elle est faite pour emporter plus que pour apporter. Donc, il faut bien comprendre que si on prend une eau chargée, on va garder les minéraux dans les reins ou dans la bile, on va avoir des problèmes de calcul. C'est pas terrible et c'est même très douloureux parfois. Et il faut une plaque Clark pour pouvoir aller se débarrasser de ça après. Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc, les eaux faiblement minéralisées, pour respecter la directive de 20 ans, doivent être entre 20 et 100, 120 mg par litre maximum. Donc, Volvic est déjà au-delà, alors qu'on est à 140, alors qu'elle est déjà assez agréable. C'est toujours son problème de bouteille, évidemment. Mais bon, voilà, l'idéal, c'est d'avoir une eau entre 20 et 120 mg par litre de résidus secs. Donc, l'eau distillée ne le permet pas. Il faut donc traiter l'eau distillée. L'eau osmosée elle-même ne le permet pas. Donc, il faut absolument traiter et augmenter la charge minérale de ces eaux-là. Voilà. Donc, la dynamisation de l'eau, on peut la comparer à cette espèce de comparaison mathématique. Si je me souviens bien, ça s'appelle une cascade de Korotkov. C'est une démonstration mathématique de surface. Et ça permet de montrer que le vortex agit de la même manière. Et quand on voit, vous connaissez certainement ces petits bouchons doubles que l'on met entre deux bouteilles, une est remplie d'eau, l'autre pas, on retourne, on donne un mouvement circulaire et on permet de créer un vortex. On fait ça une dizaine de fois et on observe les microbulles par milliards dans la bouteille d'en dessous. c'est parce qu'on a structuré l'eau et on a dissous de l'oxygène dedans, on a donné toute une structure, toute une dynamisation. Donc ça fonctionne.
J'ai une petite question sur l'eau distillée. Tu m'avais expliqué, donc si on buvait de l'eau distillée pure, elle se chargeait des gaz qui étaient dans le sang. C'était bien ça l'histoire ?
Ben, Yann Olivaux est très contrarié par le discours de Thierry Casasnovas à cause du problème de l'eau distillée. Donc, Thierry Casasnovas propose maintenant, évidemment, parce qu'il a entendu le discours, il propose de mettre du citron ou du sel. Il a bien compris qu'effectivement, il faut bouger l'eau. Mais voilà, donc l'eau distillée, ça ne se consomme pas n'importe comment. Voilà. Ou ça se consomme sur une surveillance médicale, parce qu'on peut faire des cures d'eau distillée pour des bonnes raisons médicales, mais avec la surveillance d'un médecin, d'un professionnel de santé. Et je vois qu'il y a un boulanger dans sa région de Jean-Michel qui utilise une eau purifiée et dynamisée. Ben, ça change complètement le pain. Tous les boulangers qu'on a équipés nous racontent dans le lendemain, ils nous disent ben, le pain, il a brillé d'une autre manière, il s'est levé d'une autre manière, j'ai dû changer ma manière de pétrir. Il y a des tas de trucs qui se passent parce que quand l'eau est dynamisée et propre, elle ne se comporte pas de la même manière. Et j'ai même un fou furieux que j'adore qui fait un pain extraordinaire à côté de Vernon, qui nous raconte des choses, qui me téléphone. Il est complètement fou. Depuis qu'il a cette eau-là, il dit bah, tous les boulangers devraient faire ça. Enfin bon, bref, c'est très amusant. On a des gens qui sont très prosélytes une fois qu'ils ont verré. Ou à côté de Vernon, à Saint-Just. Il s'appelle Rémi Bobier. Voilà.
J'ai une autre question.
Ils vendent son pain au marché de Vernon.
Une autre question, Thibault. Donc, de manière, je dirais pas industrielle, mais par exemple, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure qui a une serre et qui voudrait savoir s'il est possible et intéressant d'appliquer un système pour filtrer et dynamiser l'eau. Et si c'est possible, j'imagine, parce que là, c'est des milliers de mètres cubes d'eau qui défilent.
Alors, les plantes sont capables de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que penser à simplement une épuration phytoplantée, elle est des millions de fois plus performante que tous les systèmes mécaniques qu'on emploie, qui puent. Une épuration phytoplantée, vous pourriez quasiment boire l'eau qui en sort. Parce que les plantes sont capables de purifier l'eau d'une manière extraordinaire, de dissoudre les sels et de faire des transmutations qui sont quasiment de l'ordre de l'alchimie. Donc, les plantes sont capables de choses incroyables avec les bactéries qu'il y a dans leurs racines. Et c'est assez fabuleux. Donc, arroser un jardin, ben, on peut se contenter de vortexer l'eau. Alors, le concepteur de la carafe Flaska et des bouteilles Flaska et de tous les produits Flaska, ça se prononce Flaska parce qu'il y a un tréma inversé sur le S en slovène. C'est un slovène qui a inventé ça. C'est amusant, c'est comme la chambre à tachyon, ça vient de Slovénie. Et l'inventeur, il avait des fraises. Et il vortexait l'eau d'un champ de fraises, et le champ d'à côté, il ne la vortexait pas, et il avait le triple, le quadruple de production dans le champ vortexé, alors qu'il employait l'eau qui n'était pas filtrée. Donc, les plantes, elles, se nettoient. Il est évident que si je balance du plomb dans les plantes, ça ne va pas être bon. Hein, donc, il vaut mieux qu'on emploie l'eau plus ou moins correct. Il peut y avoir des bactéries dedans, il peut y avoir des tas de choses. S'il y a eu suffisamment de temps, la plante a le temps de s'adapter et de garder les qualités de l'eau au lieu des défauts. Et je vois que quelqu'un qui ne fait jamais ses graines avec de l'eau distillée, ok, mais est-ce qu'elle a été dynamisée ? Parce que ça vaudrait la peine de dynamiser l'eau après l'avoir un petit peu salée pour voir la différence qui se passe. On avait un restaurant à Lyon où la fontaine était posée sur le comptoir à côté d'un evergreen. Donc, elle montrait bien qu'est-ce qu'elle faisait pour faire germer ses graines. Le centre de jeunes et de formation de Kousmine, qui s'appelle La Croisée, elle fait aussi de la dynamisation et de la production de graines germées et de pousses de blé pour faire du jus d'herbe de blé. Et elle dit que depuis qu'elle a de l'eau dynamisée, bah, ce n'est pas la même chose qu'avant. Donc, il faut dynamiser l'eau.
Dis-moi, moi j'ai pas assez de fraises dans mon jardin. Comment je fais si je veux vortexer l'eau? Ça se passe comment?
Eh bien, tu mets un vortexeur sur ton robinet, juste avant ton tuyau, et tu peux arroser. Voilà. Et si tu avais de l'eau de pluie à foison, ben, tu auras encore de meilleurs résultats, parce qu'il faut penser que chaque goutte d'eau est vortexée d'une manière ultra efficace par son frottement dans l'air pendant sa chute. C'est pour ça que à quantité d'eau égale, si je me souviens bien, le rapport est de 1 à 40 entre l'eau d'irrigation et l'eau de pluie.
Mais oui, mais une eau de pluie, quand on va la collecter justement dans un bac collecteur d'eau de pluie, elle va perdre cette information?
Elle la perdra au bout d'une trentaine d'heures. On peut la dynamiser derrière, on la redynamise.
D'accord, l'information disparaît vite finalement.
C'est la structure qui se perd, la structure il paraît. J'ai encore personnellement beaucoup de mal à distinguer structure et information, structure et dynamisation, mais c'est semble-t-il vraiment différent. Donc moi je ne suis pas un scientifique, je suis un technicien, je suis un fabricant de machines, tout ça, d'installateur. J'ai appris beaucoup de choses, mais j'en ai encore beaucoup à apprendre, et puis je me rends compte aussi que plus j'apprends, moi j'en sais. Plus j'en apprends, plus je me rends compte que j'en connais peu. Et de moins en moins par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, c'est un plaisir de tous les jours. Voilà. Ah oui, une petite chose aussi qui peut intéresser les auditeurs, c'est le site Autarcie, E-A-U-T-A-R-C-I-E. Et il est publié en des tas de langues. Malheureusement, son concepteur est décédé en hiver dernier. C'était Joseph Orzag, qui était arrivé en Belgique après les événements de Hongrie dans les années 50. Pardon. Et donc, il était professeur à l'université de Mons. Et sa maison était déclarée insalubre depuis 40 ans parce qu'il était en autonomie complète. C'est-à-dire qu'il recyclait complètement son eau. Il récupérait absolument tout. Il pouvait arroser, il avait un potager, il avait tout ce qu'il fallait. Et c'est lui qui a créé, co-créé, avec d'autres personnes aussi, le site Autarcie. Je vois que quelqu'un l'a mis. C'est une véritable mine d'informations. C'est inépuisable, c'est fabuleux. Si vous commencez, ben, vous allez passer une nuit blanche parce que c'est passionnant. Au niveau de la dynamisation de l'eau, je vous conseille aussi de voir des bouquins sur Victor Schauberger. Il y a un Australien qui a écrit un bouquin sur lui. Je ne retombe pas sur son nom, mais vous allez le trouver. C'est le génie de Victor Schauberger. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Mais c'est un bouquin passionnant et on va montrer tout ce à quoi Victor Schauberger, qui est donc un peu le découvreur des avantages de la dynamisation de l'eau. C'est vraiment un bouquin passionnant.
Ok. Alors, je vois qu'il y a des mains levées, donc on va donner la parole aux auditeurs.
Oui,
Hervé
oui.
Hervé Legal, je vous ai donné la possibilité de parler. En fait, quand je clique sur le bonhomme bleu, vous pouvez parler, mais il faut que vous activiez votre micro, ceci étant. C'est-à-dire, mon action ne suffit pas pour que vous puissiez parler. Il faut que la personne, après, active son micro. Donc, Hervé, voilà.
Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon.
Oui, c'est bonjour, bon, on vous entend. Allez-y.
Bonjour, je suis Hervé. Ouais, c'est bon. Bonjour. Alors d'abord, bravo à notre conférencier qui est une mine d'eau vive. Et donc déjà, une grande gratitude. Je voulais moi Merci. Simplement témoigner sur la façon dont j'avais fait. Je me suis intéressé à ces problématiques il n'y a pas si longtemps suite à mon éveil spirituel. Et donc, ce que j'ai trouvé moi comme solution, donc j'ai un osmoseur inverse. Moi, je vis au bord du bassin d'Arcachon. Donc, les eaux sont très pures, c'est du quaternaire, et puis l'eau est extrêmement filtrée, mais bon, c'est quand même de l'eau traitée, etc. Donc, j'utilise de temps en temps un osmoseur, et j'ai trouvé un fabricant qui fabrique des pierres d'eau vive. Donc, c'est les travaux qui viennent d'un ingénieur du CNAM, qui s'appelle Monsieur Pierre Petit.
Et, oui, c'est fabuleux, ça.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'eau et la lumière » que j'ai dévoré, qui explique vraiment les clusters d'eau, les différentes formes, etc. Donc, je voudrais porter à la connaissance des auditeurs que ça existe. Et moi, j'utilise donc de l'eau osmosée. Je mets du sel, un peu de sel dedans. Hein, donc, ça, c'est pour la reminéraliser. Et ensuite, ça se présente sous la forme d'une
d'un émetteur,
d'un disque. de pierre recomposée avec une fleur d'ouvrier dessus. Et toutes les semaines, il faut la mouiller parce que ça boit l'eau. Hein, ça boit l'eau, c'est de la pierre recomposée. Et en fait, il a essayé de reproduire ce qu'il pensait, ce qui se passait dans les couches souterraines profondes quand l'eau ruisselle pour aller vers les nappes profondes. Et moi, j'ai testé ça au pendule. Hein, j'ai pas d'instrument sophistiqué, mais quand je mets de l'eau, par exemple de l'eau du robinet, vous avez au bout d'un certain temps, vous avez des petites bulles qui se dégagent, donc il y a une sorte de dégazification et l'eau elle vibre haut. Voilà, je voulais dire ça. C'est pas très compliqué et c'est à mon sens, c'est relativement. Je voulais avoir votre avis parce que vous en connaissez beaucoup plus que moi. Je voulais aussi dire que il y a pas que l'eau qu'on boit. Moi, je prends des douches comme tout le monde et j'ai tout un rituel avec l'eau quand je prends ma douche parce que je suis sûr que l'eau est vivante et qu'elle réagit évidemment aux pensées que j'envoie parce que la pensée est créatrice, c'est une des trois lois fondamentales pour moi. Ça, j'ai tiré de ça de conversation avec Dieu pour ceux qui connaissent. C'est la pensée créatrice, la peur attire de l'énergie semblable et l'amour est la seule réalité en fait. Et donc, quand je fais ça le matin, je l'appelle, j'ai des noms pour l'eau, j'ai le nom en hébreu Maïm, j'ai le nom en arabe Lma, j'utilise des noms et je lui parle et je pense qu'effectivement à ce moment-là je lui demande de nettoyer mon corps physique et mes corps spirituels et d'harmoniser le tout et donc c'est complémentaire de ce que vous dites mais si ça marche comme ça marche et comme on l'a montré avec les travaux de Masaru Emoto, ça marche aussi pour l'eau qui caresse votre peau et c'est quand même un élément essentiel je crois pour les êtres humains ici.
C'est bien, oui. L'idéal serait de filtrer. Nous, on a un système, hein, mais chacun peut le faire, c'est lui. Mais sinon, on en a nous aussi. On filtre aussi l'eau pour toute la maison et on emploie un filtre à sédiments, un filtre à charbon. Et derrière, on met un gros vortexeur qui empêche également le tartre de se déposer. Alors, l'avantage du système, ça permet d'avoir une eau qui est beaucoup plus douce à l'écoulement. Comme elle est dynamisée, c'est de nouveau un truc.
Ouais, ça m'intéresse. Agréable. Voilà. Ça m'intéresse voilà. Parce que surtout pour les zones calcaires en plus. Là, moi, je ne suis pas dans une zone calcaire, mais par exemple, les gens qui sont en Gironde sur Bordeaux, l'eau est très calcaire.
Oh là là, c'est terrible à Bordeaux, oui, oui. Ouais. Effectivement. Ouais.
Voilà, mais merci infiniment de tout cœur et merci parce que vous nous éveillez sur un point qui me paraît essentiel, essentiel.
Voilà, merci.
Super. Et alors, il y a Tribulus qui souhaitait prendre la parole aussi depuis pas mal de temps. Je vous ai donné la possibilité de vous exprimer. Il faut que vous débloquiez votre micro pour poser votre question ou témoigner, Tribulus, si vous vous reconnaissez. Alors, sinon, une autre personne éventuellement, mais alors, c'est possible que les mains levées, elles disparaissent au bout d'un certain temps. Je suis désolé, j'en avais vu plus de lever tout à l'heure et puis elles ont disparu. Je ne sais pas si c'est l'action de l'utilisateur ou pas. Alors, Tribulus est avec nous ou pas? On l'a perdu?
Je ne le vois pas là dans la liste.
Ouais. Bon, ben voilà, je ne sais pas si d'autres personnes vous avez des questions. Mais c'est vrai que c'est vrai, franchement, c'est de l'or là ce soir en réalité. C'est vraiment, Thibaut, vous êtes une mine d'or, une mine d'informations.
C'est très gentil, mais en fait, comme disait, moi j'aime beaucoup employer les termes qu'emploie Laurent Costa, parce que je rends à César ce qui lui appartient. Laurent Costa dit toujours, mais je lui dis, mais enfin, c'est formidable ce que tu fais. Non, moi je suis rien du tout, c'est l'eau l'artiste. Et je suis comme lui. En fait, moi je suis un passeur, c'est tout. J'ai une information et j'essaie de la passer et j'essaie de la distribuer et puis c'est tout. Ceux qui sont intéressés, ils fonctionnent. Et ceux qui n'ont pas envie, ils trouvent autre chose qui leur vibre mieux. Ce qui est très important, c'est de choisir soi-même, de décider par soi-même, de se prendre en charge. C'est pour ça que dire au bas d'une lettre bien cordialement, bon, d'accord, c'est comme tout le monde, mais prenez soin de vous, je trouve que c'est quand même plus amical. C'est plus respectueux de l'autre. Donc, c'est la même chose. C'est à vous de boire, disait Yann Olivaux. Au lieu de dire c'est à vous de boire, c'est à vous de boire. C'est vous qui décidez l'eau que vous voulez boire. Et quand je vois dans l'audience la qualité des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font, qui décomposent tous les gestes pour les mettre en conscience, ben l'eau, alors là, elle est magnifiée, quoi. C'est magnifique. C'est une grande prise de responsabilité. Félicitations à cet auditoire de grande qualité. Merci.
Et alors, et si je vous dis eau et spiritualité comme sujet de dissertation, qu'est-ce que vous me répondriez ?
Ben pour moi, l'eau, c'est la vie. L'eau, elle intéresse non seulement le corps palpable, mais aussi tout le corps, les corps éthériques. Si on n'aligne pas les corps éthériques, ben on rejoint de nouveau la chambre à tâches. C'est pour ça que moi, j'étais tellement interpellé quand Eric m'a invité pour la chambre à tâches. Si on ne souhaite pas ces corps éthériques, je ne vois pas comment on peut s'aligner, ce n'est pas possible. On est entouré de gens qui ne pensent même pas du tout plus loin que le bout de nez parce qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils ont autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte. Quand j'étais aux Philippines, dans la chapelle d'une guérisseuse où j'ai passé 12 jours, je me rendais compte au bout de quelques jours que je voyais les auras des gens parce que le climat s'y prêtait, que le calme, le temps était suspendu, que la journée entière donnait l'impression d'avoir duré 10 minutes, alors qu'on est arrivé au lever du jour et on est reparti au coucher. Surtout que là-bas, le soleil tombe comme un rideau de théâtre. Poum, d'un coup, ça s'en va. Et on arrive, il fait noir, et on part, il fait noir, et on a l'impression que la journée a duré 10 minutes. On n'a même pas pensé à manger le midi, parce qu'on est dans un endroit où on soigne les corps éthériques, où on soigne avec de l'énergie, où on est dans la paix et la gratitude, la bienveillance, l'écoute, la gentillesse, la patience, c'est l'amour personnifié. Si vous avez les possibilités, les moyens un jour d'aller chez des guérisseurs philippins, je vous garantis, c'est une expérience inoubliable. Et j'ai vu à quel point ça a un effet positif sur tout, et ça dure longtemps, ça perdure dans le temps. Quand j'en parle, là, j'ai tous les poils du corps hérissés parce que c'est un souvenir de 2013, ça va faire maintenant 8 ans. C'est un souvenir absolument inoubliable. Voilà.
Merci. Alors, avant qu'on bascule sur un autre sujet, je pense que je vous laisse encore l'opportunité. Alors, Marie-Claire Huet, je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Allez-y. Donc, vous devez enlever le silencieux sur votre micro pour pouvoir prendre la parole. Encore une fois, moi, quand j'autorise les personnes à prendre la parole…
Là, ça doit marcher.
Super.
Bon, voilà, bonjour, super. Marie-Claire Huet.
Bon, bonjour beaucoup. Donc, moi, j'utilise la pierre à eau aussi. Je n'ai pas d'osmoseur. Donc, je filtre d'abord mon eau avec une carafe Brita. Et ensuite, je mets ma carafe sur une fleur de vie, et puis ensuite sur la pierre à eau. Donc, c'est déjà pas mal.
C'est déjà une grande conscience.
Voilà.
Car Brita, il ne faut pas oublier de changer sa cartouche.
Oui, tous les mois.
Plus régulièrement que ce qu'il ouais. demande.
Voilà, toutes les trois semaines, je le fais.
C'est ce qu'il faudrait. Il faudrait encore plus régulièrement.
D'accord.
Quand j'ai fait faire des analyses pour l'originelle à l'époque, il y a 8 ans, et c'était une dame à la retraite qui m'a reçu au Carso à Lyon, qui est le plus grand laboratoire européen d'analyse chimique de l'eau, biochimique. Mmh. J'ai dit, je vais quand même faire ça. Et elle m'a dit, la Brita, ça ne devrait pas être permis, parce qu'au bout de 2 jours et demi, ça commence à relarguer. Donc, il faut être extrêmement prudent avec Brita. Et toutes les carafes gravitaires simples. Ce sont des carafes dans lesquelles il y a des petits différents composants qu'on mélange et qui vont faire une absorption avec un dé. C'est-à-dire, si j'agrandis énormément un des petits grains qu'il y a dedans, je vais observer des tas de petites grottes. Et les petites grottes vont attirer tous les ions possibles. Et quand elles sont saturées, ça largue en vrac. D'accord. C'est le gros problème des carafes comme ça. C'est pour ça D'accord. que si vous avez l'occasion de passer à parce que c'est moins onéreux qu'un osmoseur de bonne qualité, à passer à un Burkey ou à British Birkenfeld, vous allez trouver une filtration gravitaire là de grande qualité. Vous D'accord. allez trouver quelque chose, d'abord une autonomie incroyable, c'est 22 000 litres de cartouche, c'est très efficace. Je ne la vends pas, hein. je ne vends pas mm-hmm. ce système-là, mais moi je le recommande à toutes les personnes qui n'ont pas le budget et qui veulent passer à une étape beaucoup plus sûre. La Brita, ça, c'est vraiment un truc qui m'inquiète personnellement D'accord. beaucoup. Voilà, donc c'est un bon système parce que c'est vrai que ça marche déjà, on déchlore, on rend un peu le goût de l'eau, on retire une partie du calcaire, mais alors toutes les substances chimiques indécelables reviennent en larve derrière. D'accord. Attention à ça. Voilà.
Et tout à l'heure, vous avez parlé du lithotam.
Alors, comment le lithotam, c'est une petite algue. Donc, elle met 30 ans à atteindre 2,5 cm, 3 cm de diamètre. On en trouve plein au Glénan, c'est-à-dire le sable des Glénans. Quand on marche, on fouille, on va regarder dans le sable, on va trouver plein de petits morceaux des branches du lithotam. Alors, en grec, lithos, c'est la pierre, tamnès, c'est la feuille. Donc, c'est l'algue, c'est la feuille de pierre. En fait, c'est un petit corail qu'on a en Europe. Et on en a tellement exagéré son exploitation autour des Glénans que c'est devenu complètement interdit, parce que c'est le seul engrais admis en biodynamie aussi. Et ça sert depuis des lustres à reminéraliser les eaux de Bretagne qui sont peu minéralisées. Et donc là, le lithotam, on peut le prendre sous des tas de formes. Je sais qu'il y a des dentistes qui parviennent à combler des caries avec du lithotam. Le procédé, ne me le demandez pas, je suis incapable de vous le fournir, mais je sais que ça fonctionne. Le lithotam peut être ingéré en poudre fine avec à période de cure. Pourquoi ? Parce que c'est du calcium assimilable. Ce sont des micro-organismes qui l'ont transformé. Et on a le panel des oligo-éléments marins quasiment comme la TAM de BENDDF en petite quantité de façon régulière. Donc c'est un reminéralisant très puissant et très efficace. Mais de nouveau, c'est quelque chose à faire en cure, parce que quand on le prend en gélule ou sous forme de poudre, ben, c'est quand même beaucoup à la fois, quoi. Donc on fait des cures, on ne fait pas des trucs prolongés. Quand on l'emploie comme reminéralisant dans l'eau, il y en a tellement peu, on en met 4 mg, 5 mg par litre, c'est ridicule. Donc aucun danger quand c'est un usage quotidien à si faible dose. Voilà. Donc, le lithotam, c'est une véritable merveille à concentrer d'eau de Quinton sous forme solide, dilution lente.
Très bien, merci.
Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Maura. Maura, si vous pouvez activer votre micro. On a bien vu votre main levée et on attend votre intervention. Allô, Maura ? Est-ce que vous m'entendez ?
On peut lui envoyer un message ?
Oh, ça va.
Activez votre micro.
Ça risque de prendre du temps, mais Maura, est-ce que... Ouais, vous devez activer votre micro, encore une fois, mon... Bon, voilà. Après, bon, si une autre personne souhaite poser une question, n'hésitez pas. Alors, parmi nos co-animateurs, là, vous n'avez pas de questions. Vous buvez tous l'eau parfaite, j'imagine. N'est-ce pas, Sandrine ?
Il y a Gaïa Sol qui a écrit, je ne sais pas si c'est… Voilà. Elle habite en Eure-et-Loire, ou il habite en Eure-et-Loire, entourée d'agriculteurs, et elle a un petit budget pour améliorer l'eau. Ben, achetez-vous une Berkey. Voilà, ça va coûter 300 euros. Ça va filtrer d'une manière efficace tous les produits chimiques, ça va être super, c'est déjà vraiment beaucoup mieux que d'avoir à subir l'eau qu'on nous donne et qui est.
Alors 300 euros, c'est un petit budget. 300 euros, c'est un petit budget pour avoir une eau de qualité. Il n'y a pas de solution encore moins chère.
Alors les solutions moins chères, elles sont tellement imparfaites que je n'oserais pas les recommander. Pour ça que trouver 300 euros, c'est de nouveau, oui, c'est vrai que c'est un budget, c'est vrai, mais en attendant, par rapport à la santé, je pense que ce n'est pas un gros budget. Voilà, c'est une question de. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui dit j'ai 3 ans, depuis 3 ans, j'ai un Berkey, je ne reviendrai pas en arrière. Je vis en Finistère, donc oui, elle n'a vraiment pas eu le choix. C'est vrai qu'avec des problèmes des éleveurs,
c'est une catastrophe. C'est 300 euros aussi à amortir sur un certain temps. Ça filtre une grande quantité d'eau.
En l'achetant, elle va permettre de filtrer 22 000 litres. Ben, il faut les consommer, hein, les 22 mètres cubes. Voilà.
Donc, c'est sûr, ça représente beaucoup de bouteilles d'eau.
Oui, mais voilà. Il y a quelqu'un qui dit que les stocks sont épuisés sur Burki. Ben, il y a d'autres vendeurs dans d'autres pays. On peut acheter Burki en Angleterre, on peut l'acheter au Luxembourg, on peut acheter en France. Si vous voulez, en France, Yann Olivo en vend. Et comme elle s'appelle, j'ai l'adresse aussi d'une personne qui les vend. Donc, il y a moyen de les avoir. Hein. Ça se vend. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul site Burki qui vend Burki. Et puis, il y a Brichich Birkenfeld qui est quasiment équivalent. Ce n'est pas aussi parfait, mais bon, ça, c'est sur le site de Aquatechnique. Donc, vous pouvez acheter ça aussi, ça marche. Ça marche très bien. C'est dans le même budget. Il y a différents volumes. Une 8 litres, c'est bien. Ça vous permet de faire 5 litres d'une façon régulière et facile. Petite recommandation, achetez le robinet en métal et pas, vous ne conservez pas le robinet en plastique parce qu'il est un peu fragile.
On en trouve en inox pour 10 euros sur des sites, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus joli, puis ça fait moins plastique.
Voilà. Alors, j'ai trouvé un jour une copie en Ariège, dans un petit magasin bio, une copie indienne des Burki, qu'eux, ils emploient partout en Inde. Donc, je ne serais pas étonné qu'on puisse trouver ça sur le marché. Les copies indiennes sont valables. Hein. Elles fonctionnent parce qu'ils emploient partout en Inde. Elles coûtent 80 euros. Mais il faut les trouver. Voilà.
D'accord, il faut parler indien ou anglais.
Voilà, par exemple. Mais ça se trouve. Ça se trouve. Je l'ai vu.
D'accord. Donc, voilà. Ouais, j'aimerais intervenir sur un niveau un petit peu spirituel. Oui. Donc, on est passé dans l'ère du Verseau. Donc, le Verseau, c'est, alors, dans le signe plutôt hiéroglyphique, c'est deux vagues. Donc, il y a une vague qui est en dessous, qui est un peu comme au bord de la mer, qui est en train de se retirer, une autre vague dessus qui arrive. Et l'autre vague qui est dessus, je dirais que c'est une eau qui est beaucoup plus pure, parce que dans le Verseau, il y a une idée d'insufflation d'énergie, de régénération. Et je dirais que c'est tout à fait en accord avec le sujet de ce soir. Il y a cette idée d'insuffler d'énergie, de régénération dans le liquide. Je dirais que c'est tout à fait en adéquation avec le sujet de ce soir et avec un sujet dont nous discutons souvent, à savoir le changement de l'air du Verseau. Voilà, c'était un petit aparté spirituel.
Très bonne idée, très bon rappel.
Alors moi, je donne la parole à Alice, qui voulait poser une question.
Ouais, coucou, tu m'entends là ?
Ouais,
attends,
très bien.
Vous m'entendez là ? Vous m'entendez ?
Oui, on t'entend oui, bien.
Okay,
on
t'entend, je suis dehors avec mes chiens, en fait, j'ai pris le téléphone pour continuer à écouter. En fait, j'ai une question parce que moi, je suis avec Big Burquet, que j'ai depuis 5 ans et que j'ai acheté à ma maman et à mon papa parce que c'est très, 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 très bien. Et je voudrais juste savoir pour vortexer ou qu'est-ce que je fais après le Burquet pour retirer le calcaire d'une part et deuxième part pour la dynamiser.
Voilà, alors le calcaire, malheureusement, la Burki, c'est vrai, elle ne le fait pas bien. Elle laisse la minéralité, elle retire tous les chimiques. Elle est vraiment hyper efficace pour tous les chimiques, toutes les bactéries et les virus. Elle est impressionnante pour ça, mais pas les minéraux. Donc, diminuer le calcaire, je suis désolé, mais il n'y a pas de procédé autre qu'un adoucisseur, qui est une catastrophe, que je ne conseille à personne parce que l'eau n'est plus potable. Mais par contre, si on a un adoucisseur avant une Burki, oui, ça fonctionne. Maintenant, c'est une catastrophe parce que c'est un pollueur, l'adoucisseur.
D'accord.
Mais le calcaire, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Il y a que l'osmose inverse qui en vient à bout ou la distillation. Okay. Donc, c'est pas terrible. Donc, il faut faire avec.
Désolé. D'accord.
Mais la dynamiser, par contre, moi, ce que je fais quand je suis en déplacement, je mets ma Burki dans ma valise. J'ai détaché les deux charbon, cartouches pour qu'elles ne se cassent pas dans le voyage. Je les mets dans un petit sac en plastique, je remplis les vêtements et je prends ma gourde Flasca. Et ma gourde Flasca, elle permet de dynamiser l'eau en 5 minutes.
D'accord.
Mais elle donne une amplitude et un changement. Eric, tu me diras ce
donc
que
juste avec ça.
C'est tellement impressionnant. Alors, la dernière expérience, c'est quand on est allé en Hongrie en famille il y a un an et demi quand on pouvait encore voyager et je peux vous dire qu'ils se sont bien moqués de moi en me disant « Ah, tu prends la carafe avec toi, on n'a qu'à acheter des bouteilles. » Donc, les prophètes dans son pays. Hein. Et donc, j'ai pris ma carafe Burki et tout le monde a pris à la carafe Burki et tout le monde a voulu boire à ma gourde. Ça n'a pas duré longtemps.
Et du coup, attends, ouais, juste la gourde là, en fait, pour un truc à la maison, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas un
Alors, système pour la maison. Il y a la bouteille d'un litre qui s'appelle Vodan, qui est hyper efficace. Et il suffit d'aller sur le site de flaska.fr, flaska.fr, et pour commander, pour avoir un goupillon, on peut demander mettre le code OEAU. Ça, c'est de ma part.
Merci.
Voilà, c'est le premier truc à emporter avec soi et avoir chez soi. Voilà.
Oui, c'est tout là. Moi, quand Thibaut est venu, donc j'ai une Berkeley. Et on a fait un test, donc on a mis un verre d'eau qui sortait directement de la fontaine et un verre d'eau dans le système Flaska. On a attendu 5 minutes et les deux eaux étaient vraiment très différentes. La deuxième était vraiment goulayante, assez addictif. Alors la technologie, j'ai pas très bien compris. C'est une technologie qui travaille sur le silicium, non?
Alors, les bouteilles, c'est 80% de silice au moins. Et donc la silice, c'est le cristal de roche. Vous rappelez, et le cristal de roche, ça se programme. Donc, si on emploie c'est un système allemand, je connais même pas le nom, mais c'est pas ça qui est important. Mais on bombarde l'eau, la carafe une fois qu'elle a été construite, la bouteille, le verre, les gobelets, tout ce qu'ils ont, qui se produisent pendant 1h30 sous ce système. Et donc, le résultat, c'est qu'ils sont arrivés à une telle perfection que maintenant, ils peuvent le garantir à vie. Donc avant, ils disaient au moins 4 ans, et là maintenant, ils peuvent garantir à vie, ils ont trouvé le moyen pour que le verre soit suffisamment imprégné et donne, répercute cette vibration à l'eau d'une manière incroyable. Ce qui est incroyable, c'est la longueur en bouche. Quand on a une eau de bonne qualité qui rentre dans la carafe, c'est incomparable parce qu'on a une eau qui est beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce. Elle a disparu, on l'a ingurgitée, elle est déjà partie, mais on l'a encore en bouche. On a cette impression de rempli. De plénitude, de satisfaction. On a de la satisfaction à boire.
C'est presque une nourriture, je dirais. Moi, j'ai une sensation de satiété.
Satiété, voilà. C'est une satisfaction comme satiété. C'est vraiment ça. Là, je ne pourrais plus m'en passer. Hein.
D'accord. Alors, je donne la parole à Fanny M. Fanny M, vous devez activer votre micro pour... votre intervention ou votre question. Vous aviez un petit bonhomme bleu, vous aviez levé la main. Fanny M, activez votre micro.
Voilà. Pardon, c'est une erreur de manipulation de ma part. Je suis désolée. J'écoute D'accord. attentivement tout ce qui est dit, mais je n'ai pas de question. Merci.
D'accord, bah, voilà. C'est pas grave. Alors, je donne la parole à Louis. Ouais. Alors, oui, bah, je vois qu'il y avait Louis qui avait demandé avant technique de survie, là. Louis, si vous activez votre micro, voilà.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir, merci de permettre de dire. Voilà, alors, par rapport à ce qui avait été dit vis-à-vis de l'énergisation de l'eau, donc l'eau, les molécules d'eau sont représentées plutôt d'une façon équidistante entre les différents atomes qui le composent, donc qui fait en fait une forme plutôt sphérique. Donc, quand oui. l'eau commence à être énergisée, en fait, il faut prendre comme si c'était les molécules d'eau, hein, comme si c'était des petites sphères. Et en fait, l'énergie, quand on va dynamiser l'eau, donc l'énergie cinétique qui va en sortir de ce dynamisme, en fait, c'est une valeur vectorielle. Qu'on le calcule par une particule physique, voilà, c'est une valeur vectorielle qui va justement énergiser cette eau. C'est pour ça que l'eau va garder cette énergie quelque temps. Alors, à savoir que même l'eau dans un étang est toujours en mouvement. Donc, ça veut dire que ça n'existe pas de l'eau totalement stagnée, sauf si elle est dans la température du froid absolu. Je crois que c'est moins 300 Kelvin ou un truc comme ça. Sinon, l'eau, justement, sa particularité, c'est qu'elle est toujours en constant dynamisme, même s'il est sous forme de glace. Hein. Voilà. Et je veux dire, voilà. Donc, si on veut expliquer de manière un peu plus technique l'énergisation de l'eau, c'est par rapport à des forces vectorielles dans les parties extérieures des molécules d'eau. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi personnellement, dans deux de mes BAD, donc j'ai fait des BAD autonomes durables, je purifie l'eau avec trois éléments, donc les cannes de roseau, des algues aussi qui vont purifier l'eau de manière à niveau moléculaire, et avec de l'argile. Bien sûr, en prévieux, je fais décantonner l'eau pour que les sédiments tombent vers le bas, voilà. Et après, pour récupérer le minéral, parce que ça, c'est de l'eau de pluie, en fait, je fais, hélas, le système que j'ai créé, en tout cas, je pense, ça redevient très intéressant. J'ai fait des canaux avec surtout du granit, mais aussi des pierres de sagem, des cristaux de sagem. J'ai fait des canaux tout autour de la maison. Ça fait à peu près 350-400 mètres de parcours de l'eau en espirale, avec des micro-chutes entre chaque morceau de pierre, des micro-chutes mini-chutes, on va dire, de à peu près 2-3 centimètres. Et l'eau va circuler tout autour de la maison en espirale, pour arriver à un endroit de stockage à nouveau où je pourrais consommer l'eau. Donc c'est de l'eau de pluie, mais qui va se reminéraliser grâce à ce parcours justement avec les différentes pierres qui vont apporter du zinc, du sel même aussi, du sel broche, et qui va apporter donc justement des les éléments qui manqueraient dans l'eau de pluie de manière naturelle. Donc voilà mon petit apport que je voulais faire à votre belle exposition.
Merci beaucoup. Alors Thibaut, pour prendre la parole, il faut que tu réactives ton micro parce que j'avais du bruit parasite, je ne savais pas d'où il venait exactement, donc j'ai fermé un certain nombre de micros. Veuillez m'en excuser, ne le prenez pas mal, parce que je sais que des fois les gens peuvent se s'offusquer quand je ferme les micros, mais c'est qu'il y a des bruits parasites. Et donc, Thibaut, réactive ton micro. Voilà, merci.
Voilà. Alors, je disais donc, c'est grâce au mouvement de l'eau que le travail que fait notre intervenant précédent, c'est grâce au mouvement de l'eau que ces minéraux qui ne sont donc pas disponibles comme ça directement, le deviennent. C'est tout le mouvement de l'eau qui va faire ça, comme à une source. Donc, voilà tout un procédé très complexe qu'il a mis au point et qui va fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il y a du mouvement de l'eau. C'est toujours la même chose. L'eau en mouvement, c'est l'eau vivante. Donc, vraiment, bravo. C'est une belle réalisation, là.
Alors, Marie-Louise, est-ce que tu voulais dire quelque chose ce soir ? Active ton micro.
Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier Thibaut parce que c'est vraiment très, très intéressant tout ce qui a été dit ce soir. Son exposé est vraiment, je dirais même un peu compliqué pour moi. Donc, je vais lire un petit peu le site en question. Et j'aurais bien voulu demander, parce que bon, je n'ai aucune idée du coût, évidemment, de ce qu'il propose. Est-ce que ça peut être dit ici ou est-ce que ça peut être envoyé par message ou comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un petit peu des informations? Parce que faut savoir aussi que je suis en Belgique, donc est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour la Belgique?
Eh bien, je suis en Belgique pour le moment, donc surtout jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà. Oui. D'ailleurs, mon nom m'a trahi, certainement. Donc, voilà. Il y a 30 ans que je vis en France, mais bon, la clientèle en Belgique s'est développée d'une manière assez considérable. Donc, s'il faut se voir, bon, on peut se voir. S'il faut expliquer le prix, moi, je veux bien. Mais ça dépend donc des personnes qui m'ont reçu. On n'en a pas parlé parce que le principe pour moi, c'est de ne pas de vendre, c'est de que les gens prennent conscience de ce qui est à faire. Bah, et donc, on peut m'envoyer des messages personnels, hein, il n'y a aucun problème. Prenez mon nom sur Telegram ou sur Signal, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Je ne sais pas comment on peut faire d'ailleurs, mais sinon vous y allez ou un message personnel sur Facebook, ça marche aussi. Mon nom ne court pas les rues, surtout combiné à mon prénom, donc il n'y en a pas d'autre. ce sera facile à trouver. Voilà.
Alors, à travers votre site internet, tout simplement. Sur Originel, il y a un formulaire de contact, j'imagine.
Il y a un formulaire de contact au bout du site. Oui, c'est bon aussi. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème, mais je peux même venir. Donc là, pour le moment, je suis sur Bruxelles, mais je dois aller sur Namur, je dois aller sur Nivelles, je dois aller peut-être sur Courtrai, sur Tournai, je dois retourner sur Lille. Voilà, donc je dois aller à Liège, je dois aller à,
comment ça s'appelle,
dans les Fagnes, je dois aller à Remouchamps. Voilà.
Donc, ok, ça va. Oui. Alors, je voulais dire aussi que bon, moi, j'ai été élevée, je vais dire, à boire de l'eau du robinet, et j'ai constaté il y a quelques années d'ici que j'avais trop de chlore dans le sang. Forcément, il y a beaucoup de chlore ici. Hein. Donc,
le sang inverse la polarité cellulaire.
Ah oui.
Le chlore inverse la polarité cellulaire. Oui.
Ah oui, d'accord. Oui. Et là, maintenant, je bois de l'épar sur le conseil d'un médecin, mais je constate maintenant que je commence à avoir un petit peu des nausées quand je bois cette eau-là. Mais ça fait déjà un an que je prends ça.
Voilà, eh ben, il faut alterner. C'est très étonnant que le médecin n'ait pas dit d'alterner. D'abord, ce qui serait bien, c'est de secouer la bouteille. Hein. C'est toujours la même. Mm-hmm. Ça a l'air d'être bête, hein. Ça a l'air d'être tellement... ça a l'air d'être complètement ésotérique là, mais secouer la bouteille, c'est déjà quelque chose, c'est vraiment très important. Mm-hmm. C'est 15 jours, 3 semaines maximum, une sorte d'eau. Ouf. Il faut changer, parce que après, ça devient totalement indigeste. On se crée des calculs, on se crée des... Oui, les nausées, ça peut venir. Hein. Il y a des extraits, c'est pas bon.
Ah, c'est voilà. Ça, d'accord, oui. Par contre, je voudrais dire aussi... Oui.
Attends. Non, en fait, c'était la question de l'inversion de la polarité cellulaire. Je pense que je ne suis pas le seul idiot de la soirée. Si tu pouvais nous dire ce que ça veut dire.
Alors, la polarité cellulaire, c'est tout simplement nos cellules, elles attirent certaines particules et en repoussent d'autres. Si j'inverse la polarité cellulaire à cause de la présence d'un superoxydant qui est le chlore, je vais... créer un problème d'absorption des matières dont la ma cellule a besoin, et je vais repousser les matières dont j'ai besoin et attirer des matières dont je n'ai pas besoin. Donc, l'eau est faite pour emporter plutôt que pour apporter. Mm-hmm. Elle est là pour renouveler le liquide intracellulaire et éliminer ce qu'il y a dedans, les déchets de la cellule. Donc, tout le travail fait par la cellule est facilité par une eau de grande qualité. Si j'ai du chlore, je ralentis considérablement ce phénomène parce que je repousse certaines matières dont j'ai besoin et j'attire des matières qui ne sont pas les bonnes. Voilà, ça c'est les explications qu'on m'a données et que je restitue fidèlement, mais qui ne sont peut-être pas très scientifiques, qui sont peut-être plus intuitives à dire comme ça, mais c'est quand on réfléchit, c'est aussi simple que ça.
Je commence à comprendre certains problèmes.
Voilà. Après ça, on peut avoir des problèmes de constipation qui se créent alors qu'on n'était pas constipé avant ou l'inverse. Voilà.
C'est ça. Oui.
Voilà.
Oui.
Il vaut mieux se faire des cures de chlorure de magnésium que de cure d'épar. Parce que le chlorure de magnésium, c'est une origine naturelle. Il ne suffit pas de prendre le chlorure de magnésium de pharmacie. Hein. Il faut prendre le nigari. Oui. Voilà. Et le nigari, on peut se faire des cures de temps en temps. Ah, c'est vrai, on va attraper l'envie d'aller aux toilettes beaucoup plus souvent. C'est vrai, ça va nettoyer. Mais n'empêche que c'est un antiviral ultra puissant. Quand on a une coulante, ben, c'est bizarre, ça revient à la normale. Et quand on a vraiment un problème d'intoxication alimentaire, ou quand c'est tout à fait idiot, mais quand on sait qu'on a bu un verre de trop, ah, j'aurais pas dû boire ce dernier verre. Eh bien, un bon verre de chlorure de magnésium, de nigari, et il n'y paraît plus, c'est impressionnant. Ah oui. C'est une aide à la digestion qui est très efficace. Bon, j'en ai toujours avec moi, ça fait partie de mes médicaments à apporter sur l'île déserte.
Parce que j'ai déjà essayé le sel de nigari, moi ça ne me fait rien du tout. Hein.
Ah ben, maintenant, ça pas comment on le fait, voilà.
Oui, peut-être bien.
Secouer la bouteille, Louise.
Oui, d'accord, oui. Oui. Alors, je voudrais dire aussi quelque chose par rapport à un message qui est passé précédemment. C'est concernant la douche. en question. Et ça fait très très longtemps, effectivement, que moi je me connecte aux élémentaux de l'eau quand je prends ma douche pour me nettoyer. Donc je fais la demande aussi de nettoyer mon corps physique et tous mes corps multidimensionnels. Et c'est vrai que quand je parle à l'eau comme ça via mon être, évidemment, et que je m'adresse aux élémentaux de l'eau, et que je suis bien concentrée, bien connectée, je sens la vie. Je sens la vie de l'eau qui me coule sur le corps et qui me fait un bien fou. Alors évidemment, après, c'est la gratitude, bien entendu, mais c'est vrai que c'est quelque chose, quand on se connecte à l'élémental, il y a une communication différente, je trouve, que ce soit même pour les plantes ou pour les minéraux, etc. Donc, voilà, je voulais apporter un petit peu ce petit témoignage-là. Donc,
c'est toujours une histoire de conscience. Voilà, c'est toujours une histoire de conscience et de la pensée. Mmh. La pensée influence sur l'eau de manière extraordinaire. Mmh. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour tous ces apports de ressenti personnel, c'est vraiment super. Je vois que Jean-Claude, non, c'est qui là, que pensez-vous de l'eau bénite? Merci,
oui,
à
voilà.
Très bientôt peut-être. Je vois que pensez-vous de l'eau bénite, dit Jean-Claude. Alors pour moi, l'eau bénite, c'est un truc extraordinaire. Réfléchissez un tout petit peu à ce qui se passe dans l'eau bénite qu'il y a dans le bénitier d'une église où tout le monde trempe sa main et Dieu sait ce qu'il a fait avec ses mains avant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un malade par ça? Ben non. Parce qu'il y a une intention dans l'eau. L'eau ne va passer que ce qu'il y a dans l'intention, ne va pas passer ses qualités physiques. Bizarre.
Mais attends, ça veut dire qu'une eau... Enfin... Donc, c'est drôle, une eau, je suis face à un marécage, j'ai une eau qui, a priori, ne remplit aucun critère de potabilité. J'en prélève une partie, je la bénis et elle devient impotable.
Je ne te demande pas de la boire, hein, par contre.
D'accord.
Mais par contre, tu l'as sur les mains, tout ça, jamais personne n'a été contaminé par l'eau bénite.
D'accord.
Oui, moi je peux parler d'eau bénite, j'en ai en bouteille depuis 25 ans, ça vient d'une autre source en Bretagne et l'eau n'a jamais bougé. C'est-à-dire que l'eau, elle sent pas le marécage, c'est resté stable, donc c'est de l'eau qui a été bénite. Bon, c'est des pensées qu'on met dedans, on est dans l'homéopathie.
Bien sûr,
dans...
Bien
et sûr, par contre, il y a un vortex qui a été fait en même temps. Donc, les gens font tourner en vortex avec l'idée de programmer. Donc, on est comme une bande magnétique, j'exagère, mais l'idée, c'est ça.
Ah ben non, l'eau, c'est un enregistreur, c'est un disque dur, il ne faut pas l'oublier. L'eau est à la capacité infiniment supérieure à un disque dur. Il y a une conférence de Marc Henry sur l'eau, l'information. Elle se trouve sur le site de Marion Kaplan. Sur 95 degrés, 95 degrés. C'est le site de Mario Kaplan et il y a des conférences, des vidéos. Et il y a une vidéo de Marc-Henri qui est en accès libre, sinon toutes les conférences sont en accès payant, mais celle-là est en accès libre. Je vous conseille vraiment de la voir parce que vous allez comprendre ce qui se passe avec l'eau dans notre cerveau. Notre cerveau ne fonctionne que grâce à l'eau. Les neurones communiquent entre eux grâce à l'eau. C'est l'eau qui fait tout le boulot dans notre corps. Sans une eau de grande qualité, sans être en bonne santé, c'est avoir de l'eau de bonne qualité dans son corps. Et c'est impressionnant ce que Marc-Henri peut nous expliquer en trois quarts d'heure. On réécoute volontiers pour voir tout ce qu'on a loupé, tellement cette conférence est intéressante. Là, je vous souhaite d'aller voir, donc je répète, sur le site 95 degrés, pour les Belges 95 degrés, et de Mario Kaplan et chercher les vidéos et la vidéo de Marc-Henri sur l'eau et l'information. C'est fabuleux.
Merci beaucoup. On va la chercher, effectivement. Ça donne envie. Il y a Pascal 21 qui voudrait poser une question aussi. Pascal, je vous ai donné la possibilité d'activer votre micro. Voilà. On vous écoute.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Pascal.
J'ai pris en cours votre émission. Je voudrais faire un petit coucou à Eric. S'est quitté il y a 72 heures. Je voudrais parler de l'eau structurée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
L'eau structurée, elle l'est parce qu'elle a subi des traitements vortex, etc. La structure de l'eau, elle vient surtout du fait qu'il y a eu soit un traitement vibratoire avec, comme on en parlait tout à l'heure, une bouteille flasca, soit qu'on a mis un vortex, soit qu'on a mis une intention, soit qu'il y a eu des influences de circonstances. Je paierais cher pour savoir les influences des éruptions solaires sur l'eau, parce qu'elles ont une telle influence sur notre comportement. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses fabuleuses à savoir sur ça. Et je crois que devant l'eau et l'information, on est encore tout petit. Parce que plus on avance, moins on en sait. Tellement il y a à en savoir. Et de nouveau, les conférences de Marc-Henri, c'est fabuleux. Hein. Mmh. Voilà, donc, c'est extrêmement.
Il semblerait... Et dans le livre de...
Oui.
Oui, parce que j'avais vu une émission, il semblerait que l'eau ait une mémoire. Une mémoire cachée, qu'on voit pas nous, mais qui semblerait apparaître quand on fait jouer de la musique et qu'on la gèle dans la minute qui suit, suivant la musique qui est jouée, elle prend des formes extraordinaires.
Des formes différentes, oui. Ça, c'est les travaux de Masaru Emoto qui ont montré ça, ou les travaux de Laurent Costa sur waterphoto.eu. Alors ça, c'est de la démonstration sur des choses visibles avec des cristaux pris à l'état de gel des gels. C'est un moment très précis au moment où l'eau change de d'état. Et voilà. Maintenant, la structure de l'eau, on peut en parler de tas de manières parce que quand on voit tous les travaux qui ont été faits à ce sujet, il y en a un qui est intéressant, c'est on a retrouvé la mémoire de l'eau. C'est un petit film qui était passé sur Arte et c'est un travail que Luc Montagnier a fait avec une université en France où il a donc enregistré le taux vibratoire d'une information d'ADN dans de l'eau. Mmh. Il l'a mis sur support informatique, hein, ne me demandez pas comment faire.
Oui, oui.
Et il l'a retransformé et transféré à une université italienne où ils ont reproduit avec vérification en double aveugle l'information par fichier refaisant vibrer avec un haut-parleur devant l'eau. Maintenant, il y a des conditions très particulières à respecter, évidemment. Et ce travail a été fait avec le laborantin qui avait travaillé avec Jacques Benveniste, qui connaît assez bien la technique et qui arrive à la reproduire. Yann Olivo a travaillé avec ces gens-là, et donc il a pu me relater l'expérience. Et en fait, elle est reproductible. Ce n'est pas facile, mais c'est reproductible. Et alors là, c'est qu'on constate ce que c'est que la mémoire de l'eau. Et qu'on peut, l'eau a un taux vibratoire qu'on peut enregistrer, mettre sur un support informatique, envoyer par mail, reproduire et réinformer de l'eau ailleurs. C'est incroyable. Eh bien, c'est vrai. Voilà.
Et c'est différentes qualités
de l'homéopathie. Hein. C'est l'explication de l'homéopathie.
Et si différentes qualités d'eau, si on peut appeler ça qualité, entre de l'eau bénite, l'eau structurée et l'eau purifiée, on peut classer ça comment ? Pour l'organisme, pour le corps ?
On mélange plusieurs domaines, là. L'eau purifiée, c'est un domaine. L'eau structurée, c'est structuré par les intentions, le taux vibratoire, etc. Donc, c'est toujours la même chose. Quand une eau est de très bonne qualité, elle est facile à informer et on peut garder la mémoire. Elle n'est pas dispersée par les mauvais produits qu'il y aurait dedans. C'est toujours la même chose. Comment il s'appelait celui qui dirigeait les eaux de la qualité des eaux de la ville de Paris ? Une fois à la retraite, il ne sait plus parce qu'il en a eu marre d'être obligé de respecter ce qu'on lui demandait de faire et puis c'est tout.
Ouais.
Et donc, il a bien expliqué que dans l'eau, où qu'on soit en France, on ne trouve jamais moins de 1000 à 10 000 produits.
D'accord.
Jamais moins de 1000 à 10 000 micropolluants. Et que les effets des produits comme, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont infiniment plus puissants à faible dilution qu'à dilution concentrée. Alors, je dis toujours, je ne vais pas boire du Monsanto comme ça dans un verre, hein. Non. Mais par contre, je peux en avoir une très, très, très petite quantité ou une trace, ça va être beaucoup plus toxique que s'il y en avait un peu plus. Donc, attention, c'est toujours les histoires de la du potentiel nocif de certains produits.
D'accord. Eh bien, merci.
Merci beaucoup. Andy souhaitait poser une question encore. Ça fait déjà 1h45 qu'on est ensemble. Mais c'est très bien, tu vois, c'est passionnant, Thibaut. Hein, ça intéresse tout le monde.
Alors bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Du coup, je me présente, je m'appelle Andy, j'ai 22 ans. Je trouve super cool tout ce que vous faites. Moi, ça m'inspire beaucoup, tout autant que vous êtes. Et alors, moi, j'ai compris que le thème, c'était l'eau ce soir. Et donc, ma question était la suivante. Vu que les forces obscures, ils sentent que leur pouvoir, ils s'amenuisent chaque jour, est-ce que dans un souci de destruction finale totale, ils pourraient empoisonner l'eau publique, l'eau des robinets, et pour causer le maximum de mal? C'était ma question. Est-ce que c'est possible pour eux? Et est-ce que donc, il faut s'en méfier?
Ben, ça dit que c'est une intention tellement malveillante qu'elle a déjà été évidemment employée, suggérée. Il y a eu des guerres anciennes où les gens ont pollué les pluies en y mettant des animaux morts, des choses comme ça. Toutes ces choses-là se sont passées. L'eau est un des produits, avec tous ses défauts, un des produits les plus surveillés au monde. Alors qu'on a employé aux États-Unis du fluor pour rendre les gens dociles et un peu moins malins. On a introduit ça dans les dentifrices. Donc, il faut bien se dire quand même qu'on a des problèmes. Donc, c'est vrai qu'il y a moyen de manipuler les gens avec l'eau. Et donc, c'est pour ça que les sites d'eau sont tout à fait gardés, surveillés, il y a des caméras et tout ça. Mais il faut bien se rendre compte que les autorités ont énormément augmenté les quantités de chlore dans l'eau. Or, le chlore étant vraiment un problème parce que c'est un hyperoxydant, l'eau, elle n'a plus du tout les qualités qu'on lui souhaite. Et comme on fait des chlores qui sont inodores, c'est encore plus pervers. Donc, on est parvenu à faire des composés chlorés qu'on met dans l'eau pour empêcher les proliférations bactériennes. Et c'est encore pire parce qu'ils sont inodores. C'est comme l'histoire de l'agriculture raisonnée, qui est une manière de vendre toujours aux gens qui ne voudraient pas passer au bio et qui voudraient faire passer quand même des produits chimiques dans la terre. Quoi. Eh bien, le chlore, c'est la même chose. On tue tout, on s'en fout. Alors que notre corps est composé de bactéries, plus que de cellules, c'est complètement idiot d'aller mettre du chlore parce qu'on risque de démolir notre propre équilibre. Donc, il faut déchlorer l'eau, c'est très important. Un simple filtre à charbon suffit, hein. Mais attention, il faut changer le charbon souvent. Et je sais qu'il y a des bâtonnets de charbon, comme je ne sais pas les noms de tout ça. Ce sont des méthodes, ce sont des approches, mais ce sont des approches de secours. Il y a des pailles au charbon pour quand on va dans un endroit où on fait du camping, de la survie. Il y a des pailles au charbon qui fonctionnent. Il y a des gourdes avec au charbon. Ce sont des méthodes pour se permettre de ne pas boire le chlore qu'il y a dans l'eau. On prétend que le chlore s'évapore au bout de quelques heures quand on met l'eau au frigo. Désolé, mais dans un frigo, c'est un incubateur de tas de choses, donc on met des tas d'autres choses dans l'eau. Mais il y a le chlore encore, parce qu'il y a le chlore dissous qui ne s'en va pas. Donc voilà, le problème, il est là. Pour votre gouverne, quand une piscine au sel, qui est traitée au sel, sans le chlore, c'est qu'il n'y a pas assez de sel. Donc, elle compense et elle fait énormément de sel. Et si les gens croient que dans une piscine en sel, on n'a pas de chlore, oui, mais c'est beaucoup plus doux et tout, mais ce n'est pas vrai. C'est toujours un traitement au chlore parce qu'il est basé sur du chlorure de calcium qu'on met dans l'eau pour faire une électrolyse et dégager du chlore pour tuer toutes les bactéries qu'il y a dans l'eau. Voilà.
Alors justement, finalement, on voit bien que le sujet de l'eau mène à tout et notamment au complotisme. Amis complotistes, bienvenue. Et en fait, pour revenir à la question de notre auditeur précédent, là, c'était Andy, je crois.
Andy.
Oui. Ouais, Andy. Bah, en fait, Andy, t'as la réponse. Enfin, Thibaut disait c'est idiot de mettre du chlore dans l'eau. Mais non, en fait, c'est pas une idée aussi. Hein. Ils l'ont pas fait par hasard. Alors ils l'ont fait effectivement. C'est un bien qui cache un mal, comme souvent procède l'ombre. C'est-à-dire qu'on prétend effectivement nous faire du bien pour nous débarrasser de tous les micro-organismes pathogènes potentiellement dans l'eau, mais en réalité, c'est un calcul. un calcul, parce que comme le disait tout à l'heure Thibault, donc ça joue au niveau, ça inverse la polarité cellulaire, ça va générer un stress cellulaire, ça va générer des pathologies. Donc c'est un empoisonnement subtil en réalité, hein. L'histoire
absolument.
De l'amour, l'empoisonnement des fluides subtils, c'est exactement ça. Donc je pense qu'on est un certain nombre à comprendre que tout ceci est bien intentionnel. Et moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le chlore dans l'eau contribuait à faire baisser le discernement. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup aussi dans le domaine de la spiritualité. Mais vous imaginez bien que quand vous êtes dans un stress cellulaire, vous êtes dans une souffrance quelque part, mais c'est une souffrance cellulaire. Et quand vous êtes dans la souffrance, forcément, vous allez avoir moins de discernement, vous allez sur les sujets qui demanderaient justement une attention particulière ou une énergie particulière, cette énergie va être absorbée justement par ce stress cellulaire et mécaniquement, ça va faire baisser votre discernement. Donc, en l'occurrence, Andy, on a la réponse à ta question. Ça a déjà été fait et c'est fait encore actuellement, cet empoisonnement massif des populations. Alors, moi, je voulais aussi, justement, pour enchaîner encore sur ce sujet-là qui est très intéressant, c'est par rapport aux chemtrails, Thibault, est-ce que tu as étudié le sujet ? Les chemtrails n'apportent-ils pas justement encore des micro-éléments qui vont venir polluer notre eau?
La géo-ingénierie, c'est encore un truc absolument incroyable et qu'on n'imagine pas. Moi, j'ai vécu ça d'une drôle de manière et c'est pour ça que je m'y suis vraiment encore plus intéressé après. J'étais à Cuba, au bord d'une étendue d'eau de retenue, d'irrigation, et j'étais couché à côté de l'eau, et je vois au-dessus de moi un avion très haut qui se dirige vers les États-Unis. Et quand il a atteint les côtes de Cuba, parce qu'il était en altitude, il a lâché les chemtrails, il a quitté Cuba, et il a arrêté. C'était flagrant. Donc en fait, intentionnellement, je pense que Bill Gates et tous ses copains, ils essayent de nous balancer ça, les ciels voilés, tout ça. C'est évident. Claire Sévrac nous en a parlé beaucoup. Je pense qu'elle en est morte parce qu'on a essayé de la faire taire parce qu'elle a raconté trop de choses vraies. Mais voilà, c'est vrai, amis complotistes, bonjour. Les chemtrails, c'est une manière d'empoisonner les gens très subtile parce qu'on balance des nanoparticules dans le ciel. Une vraie traînée de condensation, elle est fugace. Elle ne reste pas longtemps du tout. Tandis que les chemtrails, ils montrent vraiment bien, évidemment, que c'est intentionnel. Il y a un site, je ne connais plus ça parce que je m'inquiète pas assez de près, il y a un site qui montre tous les vols en temps réel de tout ce qui se passe au-dessus de la planète et partout. Et il y a des vols qui n'ont pas de nom, mais on voit le vol. Tandis que tous les autres vols sont immatriculés, il y a un nom. Quand vous avez un ticket d'avion, vous avez le numéro du vol, et le numéro du vol est sur l'avion qui vole. Et les avions qui font des chemtrails, parce que si vous observez les chemtrails et que vous allez sur le site et vous voyez, les avions, vous voyez tous les avions qui font le travail des chemtrails, mais il n'y a pas de numéro. Donc c'est évidemment intentionnel.
Vas-y pour ta question, je t'en prie. Et puis, chers auditeurs, préparez vos dernières questions avant qu'on arrête l'enregistrement.
Alors, il y a quelqu'un, Gaïa Sotimès, qui dit que le filtre, les produits chimiques et les métaux lourds, comme le benzène, le chlore, le nitrate. Oui, bien sûr. Mais le takesumi, je ne sais pas ce que c'est le petit charbon qu'on met dans l'eau.
Oui, c'est du charbon à base de bambou ou de roseau, je crois.
D'accord, voilà. Alors voilà, c'est un effet, mais le problème, c'est que toute l'eau ne passe pas dedans. Donc, je voudrais avoir une analyse de l'eau un peu partout. Donc, je pense que la base, l'idée est bonne, mais comment on fait pour savoir si l'eau du récipient a été passée entièrement dans le charbon? Je ne sais pas, il n'y a pas de passage obligé. Donc, est-ce que le mouvement de l'eau permet de filtrer suffisamment? J'en sais rien. Ce n'est pas une filtration, c'est une adsorption. Il ne faut pas oublier ça. Une filtration, il faut qu'il y ait une maille. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi un jour dans un salon et qui m'a dit « Moi, je filtre mon eau avec ça. » Et elle met un aimant dans le verre. J'ai dit « Mais dites-moi où est la maille, s'il vous plaît. »
Ok. Moi, j'ai une observation et une question. Donc, je connais deux personnes qui ont été à Lourdes se baigner dans l'eau et qui m'ont dit la même chose. Bon, alors, les gens sont à poil sous un peignoir. Ils font tous la queue. Ils vont très vite dans l'eau. Ils ressortent. Et quand ils ressortent, ils sont quasiment secs, instantanément. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène, comme tu es un spécialiste de l'eau.
Je ne le connais pas.
D'accord.
Alors, j'ai travaillé avec un microbiologiste qui a analysé les qualités de l'eau au niveau du développement bactérien selon les méthodes de filtration. Il faut que je retrouve son nom, c'est Bernard Berthet. C'est un microbiologiste très connu, il est dans la région de Genève. C'est un bonhomme, c'est un puits de science. Et il m'a expliqué justement que les eaux sacrées ont des propriétés impressionnantes. Et que selon les formes de dynamisation qu'on a, même mécaniques, on peut arriver à des qualités proches des eaux sacrées. Or, l'eau de Lourdes, c'est vraiment l'eau sacrée par excellence. Pourquoi ? Mais parce que les gens vont tous là avec une pensée. Donc, ils entretiennent la masse de gens qui défilent à Lourdes, entretient l'état énergétique de l'eau. Donc, au niveau du séchage rapide, tout ça, je ne peux pas expliquer. Je peux expliquer en tout cas qu'une piscine dont l'eau est vortexée en permanence, c'est vrai qu'on a beau se sécher, on a l'impression d'être toujours mouillé. C'est une impression très, très drôle. On a l'impression d'être humide alors qu'on est complètement sec. Donc, visiblement, une eau vortexée, elle rentre dans la peau, elle hydrate beaucoup plus fort. Maintenant, les piscines de Lourdes, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est un phénomène réel. La tension superficielle n'est pas la même. La présence de bactéries n'est pas la même. Les gens ne s'intoxiquent pas. On parle de l'eau bénite, hein, dans le bénitier. Les gens ne s'intoxiquent pas mutuellement. Alors qu'on mélange des gens qui ont peut-être des pathologies, des maladies de peau, je ne sais pas quoi. Moi, on mélange tout et il ne se passe rien. Il faut avouer quand même, c'est spectaculaire.
D'accord. Donc, pour aller dans une note positive, si un ensemble de personnes arrive à influencer l'eau de manière positive, régénératrice, pourrait-on soigner avec de l'eau qui est chargée par des égrégores en parlant de l'effet Maharishi, pourrait-on donc charger vraiment des eaux pour soigner des personnes?
Mais bien sûr, il y a l'eau diamant et tout ça, bien sûr, il y a des effets qui se font. Mais de nouveau, il faut être en correspondance, c'est-à-dire, comment expliquer est-ce que adhérer au procédé, adhérer à la croyance « cette eau va me guérir » va aider à être en résonance avec le taux vibratoire de l'eau. C'est une résonance dans laquelle on rentre. Je me trouve devant une personne et je me dis « je ne la sens pas, cette personne. Je ne suis pas en résonance avec la personne. Je ne fonctionne pas. Oh, cette personne-là, je suis rentré dans son âme, elle est rentrée dans mon âme, j'ai directement correspondu. » Ben, nos molécules d'eau sont rentrées en correspondance, elles sont en écho et en vibration, elles vibrent à l'unisson. Je pense qu'on est tous des êtres de lumière, des êtres d'eau. On est avant tout des êtres hydriques. Avec les 99% de nos molécules qui sont de l'eau, c'est évident qu'on peut rentrer en vibration. Et comme dit Marc-Henri dans sa conférence, c'est l'eau qui fait tout le boulot. L'eau, c'est un disque dur. Voilà, moi, je n'ai pas d'autre explication à donner. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est l'histoire que j'ai ressentie dans cette chapelle de la guérisseuse aux Philippines. C'est un truc incroyable. Si on raisonne comme ça, je suis persuadé que les guérisseurs philippins, en fait, s'ils parviennent à faire des opérations à main nue, c'est parce que justement, ils rentrent dans le taux vibratoire à un tel niveau de force, à un tel niveau d'énergie. Inconsciemment, ils utilisent l'eau. L'eau de leur corps avec l'eau en résonance avec l'eau de la personne qu'ils touchent, qu'ils soignent, dans laquelle ils rentrent. C'est comme ça. C'est naturel. Chez eux, c'est naturel.
Vous voyez qu'en parlant d'eau, on peut parler de spiritualité, de paranormal, tout en parlant d'eau, hein, comme quoi c'est possible.
Ah oui, 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 oh là là, tout le temps, bien sûr.
Tout le temps même. Samia, vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez.
Ok, bah merci, bonsoir à tous. Déjà, merci, merci Thibaut pour ces sources d'informations, c'est le cas de le dire, c'est vraiment au top. Moi, j'avais juste une question parce que justement, on va se tutoyer, hein. Tu parlais de,
oui,
de,
je t'en prie.
Taux, merci, de taux vibratoire. Et justement, on parlait aussi tout à l'heure des travaux du professeur japonais
Masaru Emoto.
Voilà, j'arrive jamais à m'en souvenir, Masaru Emoto. Et justement, en fait, toute cette histoire-là me fait penser, alors je pense que tu es au courant, de l'histoire du 440 Hz avec du 432 Hz et de la vibration des molécules d'eau par rapport à ces fréquences.
Il paraît que oui, là, je n'ai pas exploré le sujet à fond, mais d'accord, j'ai entendu beaucoup de choses en ce sens.
D'accord.
C'est pas un hasard qu'on a voulu faire les 440 Hz. C'était pour normer les choses, mais je pense aussi que c'était pour influencer sur la pensée et ne pas faire entrer en vibration l'eau, il paraît. Voilà,
oui.
J'en sais pas plus, je ne peux pas dire plus.
Moi, j'en sais un petit peu plus sur ce sujet-là, parce que ça m'a intéressé en fait le 432, vu qu'à la base, je suis quand même musicienne et chanteuse, et donc du coup, vu que ça concerne la musique, c'est comme ça que j'ai appris ça. Et j'en ai déduit que, bah, comme tu disais juste avant, étant composé de 80% d'eau, je me suis dit, bah, c'est pas possible que ça agisse pas sur notre corps directement, en fait, c'est obligé. Et d'ailleurs, bah, pour la petite info, c'est à l'époque de Hitler, à la base, avant lui, la musique était en 432. Ce qu'il faut savoir, parce que bon, ça vaudrait carrément un salon à lui tout seul. Mais ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que 432 Hz, c'est la fréquence vibratoire de l'univers. C'est le bruit d'une goutte d'eau, c'est le bruit du battement du cœur. Voilà, c'est vraiment un bruit, d'accord, qui nous entoure tous. Et Hitler l'avait plus ou moins compris, hein, je pense, de par les expériences qu'il a pu faire sur les humains. Et en fait, si on résume, le 432 Hz fait vraiment appel à l'émotionnel, tandis que le 440 fera appel au psychologique, au mental, en fait.
Ah.
Donc ça n'a rien à voir. Je vais vous publier sur le groupe. Là, j'ai une photo. Tiens, elle est là. Comme ça, vous allez vous rendre compte. En fait, j'ai la photo d'une cellule d'eau qu'on voit en 440 Hz et en 432 Hz. Et bah, je pense que la photo parle d'elle-même, donc je vais vous la publier. Et tout comme ça.
C'est génial.
Accident de vaisselle. Excusez-moi. Et en fait, vous allez voir que bah, la molécule d'eau en 432, voilà, c'est bon.
Oui.
Elle est magnifique. C'est voilà, bah, ça fait penser un peu au nombre d'or. Hein. C'est très parfait, quoi. Et puis, bah, en 440, vous voyez bien, c'est brouillon, c'est pas du tout la même chose. Donc, on imagine bien que, en sachant encore une fois qu'on est composé quasiment 80% d'eau, c'est fou.
99% de nos molécules, c'est de l'eau.
Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Donc, je tenais à le dire. Et du coup, je pense que du coup, c'est un sujet, à mon avis, super intéressant à creuser.
À explorer, ah oui, de toute façon. Mais c'est comme on avance. Hein. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on en sait peu. Et ce qui est formidable, il y a eu un scientifique allemand qui a fait tout un travaux sur les taux vibratoires et les fréquences sur l'eau, justement. Je dirais Unterfasser, mais je pense que je confonds avec un architecte autrichien. C'est un nom similaire, mais je ne me rappelle pas de son nom, je suis désolé. Donc, si quelqu'un a la réponse... Il y a un travail qui a été fait à ce sujet-là qui me fait penser à ce que tu nous as montré, Samia, là. C'est magnifique. Merci.
Merci à toi, Thibaut. Et si j'ai pu partager avec vous, ça me fait plaisir. Et puis, vraiment, merci à toi pour toutes ces informations.
Merci.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci, Samia. Merci beaucoup. Ouais, bah, c'est super. Franchement... hyper intéressant. Il va falloir vraiment que je réécoute tout ça avec attention pour essayer d'intégrer toutes les informations que tu nous as données, Thibaut. Et Dieu sait s'il y en a. Je pensais que avoir des connaissances dans le domaine de l'eau, mais en fait, je suis surtout ignorant. Je me rends compte maintenant. Merci de m'avoir fait prendre conscience de ça, de mon ignorance dans le domaine de l'eau.
Ben écoute, rassure-toi, je me sens très, très petit devant ce que je découvre tous les jours. Et je me sens de plus en plus petit au fur et à mesure que j'avance, parce que c'est impressionnant tout ce qu'il y a à apprendre. Et je dois avoir beaucoup d'humilité pour accepter simplement que l'eau est un domaine infini. Et il faut accepter ça. Il faut un peu se rapprocher de Philippe Guimand pour la dimension de l'eau au présent et au futur. C'est encore un autre domaine, un truc extraordinaire. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui parle encore d'Amilo, là, voilà. Alors, Amilo, c'est quelque chose qui a été créé par quelqu'un que je connais bien, qui est une belle personne, mais qui est un système qui filtre au charbon, voilà, c'est tout, donc, et sans perte de charge. Donc, pour moi, c'est un système correct, mais voilà, c'est une grosse brita pour toute la maison, comme notre système qu'on emploie pour l'entrée de la maison. Mais Amilo ne traite pas le calcaire, et nous, on a un système qui traite le calcaire. Voilà, c'est le traitement naturel du calcaire, pas toujours avec Amilo. Donc, à voir, ça doit résonner à la personne qui a envie d'approcher. Il y a un marché de l'eau et du traitement de l'eau, il est ouvert à tout le monde. Et moi, je dis que les gens doivent accepter ou adhérer à ce qui est en résonance avec eux. Pardon. C'est vraiment important de choisir ce qui résonne. Voilà, c'est ma conclusion.
D'accord, ben, super. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est, je ne sais pas, si vous pouvez rester un petit peu encore. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette soirée hyper intéressante et j'arrête l'enregistrement, mais le salon vocal va rester ouvert. Je ne sais pas si vous pouvez rester un petit peu avec nous parce qu'il y a encore des personnes comme Hervé Le Gall qui ont des questions à poser. D'accord, super, bon, c'est super. Et voilà, donc merci beaucoup pour d'avoir participé à ce Radio Pléiade. Donc je mettrai le lien sur, je le transformerai en vidéo, je mettrai ça sur YouTube, sur la chaîne Hervé Gaïa. Et puis j'essaierai aussi de collecter les différents liens que vous avez cités. Bah, je vois qu'Eric a fait le boulot en fait. Il a collecté les différents liens qui ont été cités. Bah, c'est super. Si vous voulez retrouver les différentes informations. Et voilà. Et puis je stoppe l'enregistrement et on se retrouve pour l'after, pour ceux qui veulent rester encore, qui ont encore des questions à poser. Et puis on vous donne rendez-vous donc lundi prochain à 21h. Voilà. Merci beaucoup. Et puis à lundi prochain. Alors attendez.